Radio Stuhl. Radio Stuhl.
Bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Radio Stoub, le Racing qui retrouve le goût de la victoire, 4-0 contre Alfortville. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas gagné par 4 buts d'écart comme ça. Là je pense qu'on peut faire wouhou, allez, Conan qui lève le point, salut Conan.
Salut Paolo, ça va?
Voilà, ça va très bien, bah, il faut préciser qu'on était juste avant au Morito Football Club, on ne se quitte plus.
Hein, ça nous change.
Voilà, exactement, là on est dans une autre dimension.
On est sérieux au Morito Football Club.
Là on est sérieux, là on va pouvoir se lâcher un peu, décompressé.
On va faire des bips là.
Des bips, voilà, donc le bip, le spécialiste du bip d'ailleurs, tiens il est là, hein, ouais, c'est pour lui qu'on a, à cause de lui, hein, qu'on a censuré la dernière émission en partie, hein, des noms d'oiseaux qui avaient volé de ta bouche, hein. Bon, on va pas les répéter, mais tu es là en tout cas avec nous ce soir, Strotim. Bonsoir Strotim.
Bonsoir, j'ai honte.
Tu as honte?
Oui, j'ai honte, je me repens.
On te croit à peine. Voilà, enfin en tout cas ça va bien se passer, il n'y aura pas de censure cette fois, on va tout faire d'un trait, d'un seul tenant. Et le dernier radio chouliste du jour, un énième retour autour de ce micro, Rachmaninov.
Salut dans la semi-obscurité.
Voilà, puisque voilà. Effectivement...
On enregistre dans le noir ce soir.
C'est voilà. Vrai que au niveau des enregistrements, on avait l'habitude ces dernières semaines... Non, là, tu confonds avec une soirée au chalet, je sais plus quoi. Là,
ah, c'est
là.
Pas le chalet, c'est l'inox. Ah, encore, ça a changé, je crois.
À Orbe.
À Orbe, voilà, c'est ça. Ah. Et...
c'est où que t'as fait des soirées en boîte.
Tiens, il y a des souvenirs qui remontent à l'esprit de Conan.
J'en ai trop dit.
Mais c'est vrai que les derniers temps, on enregistrait le dimanche après-midi, et là, on est repassé au soir, hein, donc comme la dernière fois, sauf que là...
Intime.
C'est plus intime, c'est plus sympa, on a l'impression qu'on a plein de choses à se dire. Et effectivement, la première rubrique, hein, on va parler après de l'extra-sportif, hein, de l'avenir éventuel, je sais pas trop si on a un, mais enfin, en tout cas, on va quand même essayer d'en parler. Voilà, le match contre Alfortville, hein. Peut-être d'abord côté terrain, après on verra côté tribune.
On va parler de ce qui s'est passé avant, il y a eu quand même eu plusieurs matchs avant.
Alors on peut effectivement, parce que ça fait deux semaines et demie, ou trois semaines, je sais pas.
Trois semaines
sans Radio Stoub.
Trois semaines, bah, c'est vrai qu'on
comment on a fait ça.
On était très occupés, on était très mobilisés sur divers fronts. Bon. On avait d'abord le match de Fréjus, hein, cette victoire 2-0, c'était un peu le match référence quoi.
Ouais.
Le match le plus convaincant depuis le début de la saison, hein, solide derrière. Le break s'est fait très tard avec ce coup franc de Kekeo, mais vraiment, pour moi, le meilleur match dans la gestion, au moins, de la rencontre, le meilleur match de la saison.
Et face à un adversaire bien classé, en plus, hein, puisque Fréjus était à ce moment-là du championnat 3e.
N'avait perdu qu'un match,
et le Racing a assuré ce match, un match référence, comme on dit.
Et le but de Lady arrive assez tard aussi.
Oui, il arrive. Il arrive vers
l'heure de référence, jeu. Oui et non, parce que moi je me souviens, au bout d'une heure de jeu, je me dis on va jamais le gagner ce match.
Mais ça c'est parce que le pressé.
Parce que je me suis habitué, voilà, parce qu'on s'est habitué. C'est vrai que c'est ce genre de match qu'en Ligue 2, sous JPP, comme tu te plais à le rappeler souvent, on gagnait à chaque fois. 15-0 seulement, mais bon.
2-1, 1-0, ouais. Enfin c'était toujours par un but d'écart, là c'est par deux buts d'écart.
Moi j'ai pas trouvé ça grandiose non plus, mais c'est vrai que dans la situation actuelle, on va pas faire la fine bouche.
En tout cas, ce qui est positif, c'est quand même 3 victoires de suite là. Ah non, il y a le match de Passy, hein, qu'on oublie, qu'on aime bien.
Ouais, oublier. Ouais, bah, on va en parler aussi.
Mais sur...
4 matchs, 3 victoires.
Hein, sur Fréjus, moi ce que j'ai beaucoup apprécié finalement, c'est ce but de Lady. Hein, c'est enfin David Lady qui marque. Parce que c'est un mec, moi j'aime bien. Enfin, on a beau le critiquer très, très régulièrement, c'est quelqu'un que j'aime bien. Moi je pense que c'est un joueur qui peut apporter, et même s'il n'est pas toujours très, très en réussite, il est en train de prendre peut-être une dimension...
C'est quelqu'un dont certains ont fait la tête de Turc, hein, notamment sur le forum. Par contre, on peut dire que sur le terrain, c'est vrai que c'est quelqu'un qui s'économise jamais. J'ai encore fait la réflexion lors du match contre Alfortville. Ce qui résume Lady, il est pas bon, mais au moins il se bat, il court partout. Finalement, il est assez.
Je trouve bon, moi.
Et finalement,
je trouve pas mauvais.
Et finalement, il est assez précieux. Moi,
pourquoi tu dis il est pas bon, mais il se bat.
Non, mais ce qui est. En fait, c'est qu'il est
bon,
Lady. Il a manqué d'efficacité. Donc ça, c'est ce qui était reproché. C'est un peu le mec qui court, mais qui la met pas au fond. Ça serait peut-être en train de changer. Peut-être que là, c'est un déclic. Peut-être ce but contre Fréjus, ça va tout enclencher. Là, il a remis un peu le même type de but contre Alfortville. Peut-être que l'efficacité est là.
Tout à fait.
C'est pas un déclic, c'est le fait de jouer à son poste. 3 matchs en pointe, 3 buts.
C'est un avant-centre, c'est un numéro 9.
Ou le fait de jouer à National.
Ou le fait de le jouer à National aussi, mais il avait mis des buts en Ligue 2 aussi, pas beaucoup, mais il en avait mis.
Enfin, en Ligue 2, il avait marqué ?
Oui, en Ligue 2, il avait marqué 3 buts l'an dernier, il en avait mis 2 en début de saison.
Ouais, à Nantes. C'est à Nantes, il avait marqué, Guigues l'avait embrassé sur le terrain.
Ah oui, tiens, c'est vrai. C'est vrai.
À Nantes, Van, il nous arrache un match nul aussi. C'est un numéro 9. Sur le côté, il n'était pas...
Mais c'est vrai que...
Sur le côté, il n'était pas à son aise parce qu'il ne savait pas gérer ses courses, qu'il était épuisé au moment où il entrait dans la zone de vérité.
Il me rappelle Wilfried Gouel, moi.
Oh non.
Si, côté, je cours partout, je suis pas super efficace, mais j'ai ce côté attachant, parce que c'est vrai que David Lédy est quelqu'un de très attachant.
À Trezeguet. Les deux buts qu'il met là, non mais attends, le but contre Alfortville, le but contre Fréjus. C'est quoi, c'est la petite déviation du pied, ouais. Le gars il est là au bon endroit, au bon moment, il touche la balle, il effleure la balle.
C'est pas des beaux buts, mais ils sont là.
C'est des buts de buteurs, quoi.
C'est des buts pas faciles à mettre quand même. Hein.
À la Trezeguet.
Ouais. Pas le deuxième, pas le celui d'Alfortville. Le premier d'Alfortville, oui, il est pas facile.
Ouais, le deuxième est plus facile, ouais. Mais celui de Fréjus, c'est très compliqué. Moi au début, de là où j'étais dans le stade, j'ai cru que c'était un CSC un contre son camp. Et il est vraiment très bien placé, et puis le geste technique en soi est pas forcément facile à réaliser, donc non, c'est bien. Enfin, moi je pense que ce type-là n'a rien à faire sur un côté. Ces entraîneurs successifs, que ce soit Furlan, Jeannin et même un peu Fournier au début, ont voulu le mettre sur un côté. C'est évident qu'il n'est pas à son aise parce qu'il a effectivement pas la technique. Il ne faut pas oublier que c'est un type qui n'est pas passé par un centre de formation. Il est arrivé au Racing, il avait 18-19 ans, donc par rapport à des types qui ont suivi le cursus depuis 14, 15, 16 ans, lui, il est resté sur ses 3 entraînements par semaine pendant toutes ces années-là. Donc il n'a peut-être pas forcément le même bagage technique. Par contre, sur la volonté et le sens du but.
Deux parties, a priori, bloquées ou semi-bloquées contre Fréjus, contre Alfortville. S'il n'y a pas Lady pour mettre la petite patte, bah, je ne sais pas si le Racing marque le premier but contre Alfortville ou contre Fréjus. Hein. Pour moi, c'est un élément quand même qui est en train de devenir déterminant, donc c'est important de l'encourager. Et c'est vrai que les critiques, moi, elles me gênent un petit peu sur le forum.
Bah, sur le forum, c'était très violent hein, quand même.
Ça me gêne parce que c'est une tête de Turc et c'est pas objectif.
Déjà, quoi. Ce qui me gêne, c'est au-delà, il est bon, il est pas bon. C'est quelqu'un qui mouille le maillot, c'est quelqu'un qui respecte le maillot, c'est quelqu'un qui fait son boulot avec cœur. Donc à partir de là, qu'on dise qu'il est pas bon, et c'est vrai que des fois il a pas été bon, notamment à Olungen, il rate des trucs, mais c'est assez incroyable. C'est vrai que pour un avant-centre, ça a un côté agaçant. Maintenant, c'est vrai
à Olungen, il a été bon, mais pas en tant qu'avant-centre. Quoi.
Il a pas été bon. Hein.
Il a pas mis la balle au fond, là, il tire sur le poteau, mais sinon, moi, je trouvais qu'il était... C'était un des joueurs les plus actifs, sur le front offensif, en première mi-temps. C'est lui qui faisait les appels, c'est lui qui faisait les courses.
Il est très actif. Hein. Il est très...
Et quand tu es actif, et voilà, quand tu proposes des solutions, pour moi, déjà, t'es dans le match, quoi. C'est important.
Non, il est très actif, il est très précieux pour une équipe.
Hein. Il défend. Après,
on est en national, faut pas oublier.
C'est vrai que ça me fait plaisir qu'il progresse, ça me fait plaisir qu'il acquiert son galon de titulaire. Ça, c'est une certitude.
Alors, une petite question, Fréjus, donc on gagne 2-0, là on se dit beau match référence, et derrière, match en semaine contre Passy-sur-Eure, et là c'est de nouveau le vieux match 0-0.
Qui était là?
Toi, moi j'y étais pas.
Il y avait Bouknon qui était. Hein.
On avait quelques Strasbourgeois qui étaient.
Et Philippe.
Voilà,
Philippe UV90.
Philippe UV90 qui prend une dimension encore plus grande, ultra.
Chonchon va perdre le méga sans.
Voilà, là, c'est programmé. Hein. Mais comment expliquer qu'on fasse un match de merde pareil juste après? Pourquoi est-ce qu'on se sert pas de ce match référence pour aller à Passy et tout péter?
J'ai l'impression que c'est une équipe que. Bon, ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'on a une équipe très jeune, une équipe qui a peut-être tendance à s'enflammer.
Rachma qui
jeune, toutes les équipes sont jeunes.
Mais pas toutes les équipes jeunes.
Si. Mais non. On a des moyennes d'âge, on a toujours la moyenne plus élevée que les mecs en face.
Bah parce qu'il y a Pichot qui décuple.
C'est vrai,
il fait partie de l'équipe Pichot.
Mais oui, mais
c'est vrai que contre New York.
Si on enlève Pichot et Sikimic et Bidule et
tout, on a que des mecs de 22 ans.
Et si pareil, si on enlève les défaites, on a gagné tous les matchs.
Ouais.
Et il faut encore enlever les matchs nuls.
Mais attends, c'est une moyenne déséquilibrée que.
Non mais ce qui est vrai, c'est que plusieurs équipes qui ont affronté le Racing, finalement, on disait le Racing est jeune, mais l'autre équipe en face. Je me souviens, Niort en début de saison, ce match tout pourri 0-0 à domicile, Niort était.
J'étais en vacances,
était
pas le voir.
Plus jeune que le Racing, quoi.
Ça, mais pareil contre Plabennec, on dit qu'on est équipe jeune. Les mecs en face, ils avaient aussi un vieux briscard là.
Il y avait un vieux briscard qui faisait monter 3 ans la moyenne d'âge, quoi. Ouais,
Mais bien sûr, il a 36 ans le mec.
Mais attends, à Passy-sur-Eure, il y en avait un qui a une grande barbe, on aurait dit un pépé là. Tu l'as pas vu celui-là ?
Oui, mais donc c'est peut-être un vieux qui fait monter dans ouais, le village de la même façon que
le bichot de Patrick Stewart.
Non, mais t'en as un, il avait une immense barbe.
Mais c'est vrai que la jeunesse, est-ce que c'est une excuse ? Est-ce que c'est un alibi ? Qu'est-ce que c'est ?
Bah oui. La
seule chose sur laquelle on peut vraiment compter en ce moment, c'est notre solidité défensive. Parce que là, Gürtner, ça fait quand même, je pense, 300 minutes qu'il n'a pas encaissé un but.
C'est vrai.
J'allais y venir.
Donc, finalement, quand on est à l'extérieur, on se repose sur ce qu'on a. Donc, on essaye de ne pas prendre de but.
Non, on est incapable de faire le jeu.
On est capable de faire le jeu parce qu'on n'a pas assez de joueurs de rupture, on n'a pas assez de joueurs qui te font basculer un match. Ouais. Des Yann Kolar, des Cahuzac comme un Bastia ou des...
L'an dernier, on avait Fauvergue, ça marche pas. Voilà,
des Thibaut Giresse ou des Lionel Matisse comme Guingamp. Nous, on n'en a pas. On en a éventuellement un, c'est Ketkeo, mais effectivement, lui, pour le coup, il est très jeune. On a Matlouti dans les bons jours. Mais on n'a pas ces joueurs qui vont, sur une action, sur un coup de génie, te faire basculer régulièrement des matchs. Ils peuvent le faire de temps en temps, un coup d'éclat, mais ils y arrivent rarement. On n'a pas assez de solutions de ce type-là pour vraiment pouvoir faire du résultat à l'extérieur. Donc qu'est-ce qu'on fait à l'extérieur ? Et je pense que ça, c'est assumé de la part du staff. On joue sur notre point fort. Et notre point fort, c'est quand même la défense. C'est là qu'on a le plus d'expérience. Et c'est là qu'on a le plus de certitude.
Et dès qu'on ouvre le score à la troisième minute, finalement, ça fout tous les plans par terre parce que c'est presque...
C'est presque trop tôt.
C'est presque un handicap de mener au score. Quoi. C'est assez...
telle l'équipe de France en Argentine en 78 contre l'Italie.
Voilà. Merci pour le point historique. Et Rachma, qui veut rebondir là-dessus.
La raison aussi, c'est qu'on a une équipe moyenne, tout simplement. Une équipe moyenne, elle assure à peu près à domicile. La majorité des équipes moyennes dans tous les championnats, en général, ils sont meilleurs à domicile qu'à l'extérieur. Ils gagnent pas souvent à l'extérieur et ils gagnent plus souvent à domicile. C'est voilà.
C'est comme toutes les équipes.
Les cadors de championnat arrivent à aller s'imposer assez souvent à l'extérieur. Ce n'est pas le cas.
On y arrivera.
C'est une équipe moyenne.
Est-ce qu'on a une bonne équipe ?
Non, on a une bonne équipe, mais c'est une équipe jeune.
Strotim.
On a une équipe moyenne.
Moyenne.
Voilà. Non, on a une équipe jeune. Avant que Rachmaninov m'interrompe de manière impromptue. Je voulais quand même préciser ce que j'entends aussi par jeunesse, c'est pas forcément une question de moyenne d'âge, de la moyenne d'âge de Pichot.
Tu peux être jeune et tu peux être bon.
La moyenne d'âge de Pichot.
Mais c'est pas une histoire d'être jeune.
Mais être jeune, c'est une équipe, c'est des gars, ils ont jamais joué ensemble. Qu'est-ce que tu veux que je joue pas que des automatismes, ça se fait du jour au lendemain.
CFA2,
il y a... La jeunesse, c'est le manque d'expérience individuelle, c'est aussi du manque d'expérience collective. Et ça va s'acquérir au fil des matchs.
Mais pour l'instant, ils sont moyens.
Oui, mais il y a une progression intéressante.
Il y a un potentiel.
Et une marge de progression intéressante.
Oui, mais ça va arriver trop tard. Parce que le temps que l'équipe... Enfin, je pense aussi que cette équipe, elle va progresser au fur et à mesure des matchs. Parce que vu qu'effectivement, on est parti avec 11 gars qui n'avaient jamais joué ensemble, par rapport à des équipes comme Guingamp ou Bastia, qui ont gardé leur ossature de Ligue 2, évidemment, on met du temps à rattraper. Après, au bout d'un moment, quand on va avoir les automatismes qui vont commencer à venir... les blessés qui vont revenir pour certains.
Ça peut faire du bien, ça.
Ça peut faire du bien. Donc là, on va remonter un peu la pente, mais ce sera trop tard.
Même Kébé, hein.
Kébé, le sauveur.
Kébé en national, il peut faire...
Ça, j'y crois pas.
Il peut faire du Matlouti, hein.
Franchement.
Je sais pas, parce que tu regardes un type comme le dit, qui a quand même des états de service autrement plus reluisants que ceux de Kébé en Ligue 2, parce que lui, il a marqué, il a fait des passes décisives. Déjà, on voit qu'en national, il a des moments avec et des moments sans. Alors, un type comme Kébé, qui est quand même à 0 but, 0 passe, en une trentaine de matchs au Racing, Ligue 2 et CFA compris, qui en plus n'a pas joué depuis un an.
Et qui est peut-être pas motivé.
Ça, je sais pas, je ne vais pas le juger.
Ça fait des solutions de rechange, ça fait qu'on aura un banc de touche qui fera un peu moins pitié.
Ça fait
qu'il y aura un peu plus d'émulation à l'entraînement. Voilà, quand il y aura un Bramia et un Kébé à mettre en plus dans la rotation.
Bramia qui revient. Ouais,
voilà, ça aussi.
Farez.
J'ai beaucoup plus confiance en Bramia.
Oui, mais le banc de touche aura une autre gueule s'il y a Bramia qui est dessus, prêt à rentrer à une demi-heure de la fin pour foutre le boxon, que s'il y a des mecs qui ont 16 ans et demi et qu'on connaît même pas. Quoi.
D'où peut venir l'éventuel saut de qualité entre une équipe moyenne et une bonne équipe ? Parce qu'on sent qu'on n'est pas loin, effectivement. Ça, on peut être d'accord. Hein. On sent que bon, voilà, ça se situe entre le moyen et le bon, on va dire.
La confiance, le travail collectif.
Oui, bon, ça, c'est des grands concepts.
Hein. C'est des grands concepts, mais c'est ça.
Oui, mais non, c'est ça.
Et la confiance, on est en train d'acquérir, comme ça a été dit très justement par Strotim, ça fait 4 matchs les 4 derniers matchs, on n'a pas encaissé un but.
D'accord.
Mais ça, c'est quelque chose de très important.
Je crois qu'aussi, on a un effectif qui est assez peu étoffé. Il faut vraiment qu'on ait la baraka au niveau des blessures. Parce que, si on a l'effectif au complet, si on peut faire jouer un petit peu de concurrence devant entre des mecs qui ont le niveau D2 national, là, ça peut le faire. Mais si on a Matuidi qui se blesse, il suffit d'un petit grain de sable de ce type-là pour que je pense qu'on rentre dans le rang. Et...
Un grain de sable type Fauvergue l'an dernier.
Voilà, que ce soit clair, hein, si on monte, c'est un exploit.
Ouais, c'est ce que...
Encore une fois, vu les circonstances sportives, vu la jeunesse de notre effectif, n'en déplaise à Rachmaninov, et vu également le manque de profondeur de Mantouche, qui est un handicap
Bill
certain.
Château qui a joué contre Fortville.
Ça, c'est une très bonne nouvelle.
Est-ce que ça ne peut pas permettre justement de contribuer à encore solidifier un peu derrière et finalement permettre à des joueurs de se lâcher plus offensivement
Sans doute, oui.
Un mec qui jouait défenseur et qui parfois monte au milieu de terrain.
Donzelo,
voilà.
Martiaux qui...
Non, oui, Martiaux aussi, ouais, des joueurs comme Martiaux, ça qu'on utilisait défenseur il y a quelques semaines et maintenant qu'on peut se permettre d'aligner milieu de terrain. Est-ce que ça ne peut pas permettre justement un développement des choses au niveau offensif?
Ça permet plus de choix tactiques, ça permet plus de stratégie, ça permet aussi de faire souffler des gens et donc éviter des blessures.
Pour ceux qui étaient... Il a fait un bon match, Château, apparemment.
Ouais.
Il a fait le boulot. C'était pas exceptionnel, mais il a pas non plus été...
Il a pas chié dans la colle, quoi.
Voilà.
Physiquement, il a tenu le choc. Ce qui n'était pas évident pour un mec de 35 ans qui débarque du Qatar, qui a pas joué depuis 6 mois. Honnêtement, physiquement, il avait l'air de tenir le choc. Donc, pourquoi pas. Au moins, ça fait un vrai spécialiste du poste et ça fait un gaucher, parce que... Le pauvre Pichot, il avait quand même bien du mal avec son pied droit arrière-gauche, c'était un peu compliqué pour lui. Donc Château, c'est pas exceptionnel, mais je pense que ça peut faire le boulot pour le reste de la saison. Donc ça va nous apporter un surcroît de solidité, mais après, c'est pas parce que t'es serein derrière que automatiquement les types vont jouer libéré devant. Ce qu'il te faut, c'est des joueurs de percussion, des joueurs de rupture. Le seul profil qu'on met encore en réserve de ce point de vue-là, pour moi, c'est Bramia, parce que c'est vraiment le type qui martèle le marteau pilon sur son côté, qui sollicite, qui provoque tout le temps. Mais à part lui, il n'y a pas grand monde en réserve non plus, donc on va faire avec ce qu'on a. Et voilà, mais enfin...
Il faudra recruter, quoi.
Ouais, j'attends l'explosion d'un Gengini, moi.
Je sais pas, j'ai l'impression qu'il plafonne un peu, Gengini, moi.
Ouais, j'ai l'impression qu'il peut faire beaucoup mieux. Ouais, j'aime beaucoup, hein, j'aime beaucoup, mais...
Il manque quelque chose, quoi.
Un déclic, peut-être un but, ou je sais pas.
Un petit mot sur le match de Lungen, où on parle d'Alfortville, quand même.
On va parler de Lungen, un petit peu.
Un petit mot, peut-être au niveau général, hein, l'ambiance...
Ambiance en prêtre, bière, main courante...
Grog,
il y avait le grog.
Voilà, le grog à 2 euros, hein, qui a remplacé le vin chaud, parce que le vin chaud n'était pas encore prêt.
Ambiance sympathique, il y avait des vues usées là, il y avait...
C'était moins sympathique pour certaines oreilles.
Je croyais que tu étais fan des vues.
Ouais, au départ j'aimais bien, mais après le côté commercial.
T'aimes bien tant que t'es pas au stade quand il y a des vues usées là.
Non, j'aime bien quand c'est pas
commercial.
Quand ça passe pas le cap de la mode à 2 francs là.
Si ça permet à un petit club de renflouer ses caisses, moi je suis pas contre de claquer 5 euros.
Je préfère acheter plusieurs grogs à 2 euros chacun.
Après c'est pas incompatible.
Mais les gamins ils peuvent pas acheter des grogs, alors ils achètent des Vuvuzela.
Il y aura peut-être plus de chants, plus d'ambiance si elle peut les Vuvuzela quoi.
Ouais bah attends. On n'est pas là, c'est pas le Panathinaikos, c'est un petit match, comme un match de campagne le dimanche, on a bien rigolé, on s'est bien amusé, le match n'était pas si facile que ça pour le Racing, hein, qui est quand même passé au Lungen, a quand même...
Deux grosses occasions en deuxième mi-temps, Lungen à 1-0. Hein.
Notamment un arrêt de...
Arrêt de Kei,
je ne me rappelle jamais de son nom.
Un arrêt
réflexe extraordinaire, hein, franchement. Ouais. Autant sur les sorties aériennes,
Il est perfectible.
Sur la ligne, qu'est-ce qu'il est bon. Ouais, il a 18 ans. Hein.
C'est un bel espoir aussi pour le Racing.
Bel espoir pour le Racing.
Et finalement, le premier but d'Adji, hein, qui là aussi a marqué contre Alfortville. Donc c'est pas mal aussi si un mec comme ça se prend un peu de confiance.
Mais tu sais que lui, tout le monde se moque de lui. Moi, je le trouve pas si mauvais, Adji.
D'accord, donc tu penses que ça peut être un attaquant qui va marquer cette saison?
Ah, moi je pense qu'il peut être bon. Hein.
Adji, ouais, qu'est-ce qu'on peut dire sur
Bonne entrée contre Alfortville, franchement, ça, c'est vrai que... Bon, c'était plus facile parce que c'était contre une équipe qui avait déjà 70 minutes dans les jambes, qui s'en était pris deux. Mais il a bien fait le boulot et ses contrôles notamment étaient largement meilleurs que ce que j'avais pu voir sur les matchs précédents. C'est-à-dire qu'avant, le ballon rebondissait vraiment très très loin de lui. Ça faisait un peu peine à voir d'ailleurs parfois. Et là, honnêtement, il avait beaucoup plus de facilité à faire ses contrôles, ses enchaînements. Et donc évidemment, il avait beaucoup plus de facilité à jouer le rôle de pivot. Et sachant que c'est le seul attaquant dans l'effectif qui peut vraiment jouer ce rôle de pivot dans l'équipe, si effectivement il peut un peu prendre confiance en lui et progresser, je crois que c'est du tout bon pour l'équipe, parce qu'un duo, enfin à la base le duo idéal ce serait quand même Adji Matuidi, c'est-à-dire le grand qui fixe la défense, et puis...
ça peut être derrière, ça, un duo pareil, ou c'est juste une...
Bah, en théorie c'est complémentaire, après ouais. Tu sais jamais si... Enfin, pour l'instant ça n'a jamais marché. Sur les matchs où ils ont été alignés ensemble, ils jouaient très très loin l'un de l'autre, ils se comprenaient pas, Adji avait du mal avec ses contrôles, Matuidi était très perso, donc jusqu'ici ça n'a pas marché, mais théoriquement ce sont deux profils complémentaires.
Moi Adji je l'ai vu très mauvais hein, sur les premiers matchs,
oui, c'est vrai
vu très mauvais, par contre même quand il était très mauvais, il y a un moment dans le match, il y a des petits éclairs, il y a des choses qui me font dire, il est peut-être avec un peu plus de confiance, il est peut-être pas si mauvais que ça ce mec.
C'est l'ADN.
L'ADN.
Non mais c'est... Voilà, c'est
peut-être... Les DNA
c'est... Non, les DNA de Mustapha.
Ouais.
Ah
ouais, effectivement, ouais.
Putain, mais là, j'ai cru que j'avais dit un truc, une connerie.
Non,
mais en plus, silence, genre...
C'était juste pas drôle.
Non, mais c'était pas censé être une blague.
Ouais, c'est vrai que c'est le
non, bah,
aussi, ça illustre...
Non, au contraire, c'était trop fin pour nous, excusez-moi. Ouais. Voilà, on est trop bêtes.
On n'est pas au niveau, ouais.
Si t'avais dit acide des nucléos...
Ah bah là, on aurait...
Ouais, là, ils auraient connu.
Là, on aurait été mordus.
Les sigles, tu sais, RCS, DNA...
DNCG,
etc. Non, mais c'est vrai que si Adji peut apporter un plus, ça peut être pas mal. Au niveau d'Alfortville, bon... Au niveau du match en lui-même, c'était une première mi-temps quand même relativement pauvre, à nouveau de notre part. Ça me fait penser à Plavnec. Hein.
Ah, c'est de la nationale.
Est-ce qu'on va se taper du Plavnec
C'est de la nationale. Gürtner très bon.
Oui.
Ce qui montre
deux
que...
Deux belles claquettes. Hein.
Ouais, il nous sauve la mise deux fois. Hein.
Ouais. Et des prises de balles très sûres, même sur, pas vraiment pas sur les occasions aussi, enfin sur les occasions d'Alfortville, il a été très bon, mais aussi sur des prises de balles plus anodines. Il a été extrêmement sûr, il a rassuré sa défense qui par ailleurs n'était pas du tout sereine parce qu'au niveau de la relance, il y avait quand même beaucoup de cafouillage, beaucoup de ballons qui étaient renvoyés dans les pieds des joueurs d'Alfortville à 30 mètres. Donc, un bon match de Gürtner qui fait ce qu'on attend d'un gardien, c'est-à-dire qu'il nous sauve la mise sur les 30 premières minutes où on était franchement pas bon. Et ça, ils l'ont tous reconnu, hein, Fournier, les joueurs, tout le monde a dit, là, les 30 premières minutes, ça allait vraiment pas. Ouais. Et donc après, derrière, on a pu jouer... plus notre registre parce que Alfortville s'est fatigué, parce qu'Alfortville a été déçu. Mais merci Gürtner sur ce match-là parce que honnêtement, j'ai trouvé ça beaucoup plus pénible que Fréjus, qui a été pourtant un match beaucoup plus à l'arrache au niveau du score, mais c'était franchement pénible.
En tout cas, beaucoup de buts pour peu d'occasions, quoi. C'est beaucoup de réalisme surtout.
Il y a quand même eu pas mal d'occasions en deuxième mi-temps. Hein. Il y a quand même eu pas mal
de... 5 occasions, 4 buts. Quoi.
On a eu des occasions après avoir marqué.
Avoir marqué le deuxième,
Il y a juste, je ne sais plus qui, face au gardien...
Bénédic,
qui face au gardien...
Il y a une autre occasion aussi qui passe pas loin.
Adji, il y a un rush de Adji aussi.
Adji qui...
Qui rase le poteau.
On a eu quelques occasions. Puis après, il y a eu quelques corners, il y a eu quelques... Pardon ?
Non, c'est le rush de Adji. Enfin, moi qui n'ai pas vu le match, j'entends rush de Adji.
Mais c'était... là, pour le coup, c'était vraiment un bon rush. Quoi. Il a pris le ballon, il était facilement encore à 40 mètres du but. Et il a percuté, il est entré dans la surface.
Ouais.
Et s'il met ce but-là, le but est vraiment très très beau parce qu'il y est vraiment allé à fond. Et oui, comme quoi, tout peut arriver.
Non, c'est vrai qu'il n'y a pas eu 90 minutes pleines du Racing. Par contre, le Racing a accéléré au bon moment. Face à une équipe d'Alfortville qui n'a pas fait un mauvais match, qui nous a inquiétés pendant 40 minutes quand même. Et juste avant le but de Lady. Après la deuxième mi-temps, début de deuxième mi-temps un peu pénible, Gürtner qui nous fait un arrêt spectaculaire, une claquette sur une balle qui partait en pleine lucarne. C'était assez beau à voir, une lucarne de virage. Et puis après, le dernier quart d'heure, le match qui se débloque.
En tout cas, on va pas faire pas faire la fine bouche de toute façon. Victoire 4-0, ça faisait longtemps. On était quand même soulagé et content d'avoir vu 4 buts et ce score, hein, ce panneau d'affichage 4-0. Cette chanson qui est partie du coffre, hein, 4 buts au fond des caisses, c'est vraiment un festival. La cigogne URSS qui s'envole dans les étoiles, dans les étoiles. Voilà, ça faisait longtemps qu'on n'a pas pu chanter une chose pareille. Donc c'était quand même un moment de plaisir à ce niveau-là. Quoi.
C'était beau.
À moins que vous ayez encore des choses à rajouter sur le côté sportif. Oui, ouais. Rachma.
Le gros point positif aussi, c'est pour la différence de buts. Là, j'ai regardé le classement. C'est vrai que c'est quand même assez serré. On est...
On est qu'à 6 points du 3ème.
Il y a quand même beaucoup de clubs qui se tiennent en 6 points. Donc c'est vrai que la montée reste possible sportivement. Et dans cette optique, même dans. C'est bien de s'être replacé au niveau différence de but. On a plus 7, c'est pas la meilleure différence de but du peloton, mais on est quand même devant pas mal de clubs de ce côté-là. Donc au moins on n'a pas ce point en moins de ce côté-là.
À condition,
voilà, il faut le garder maintenant.
À condition
mais c'est bien, faire, c'est bien entre plus 3. On aurait gagné un vieux 1-0, on aurait eu plus 4. Enfin là, plus 7, c'est quand même pas mal. C'est bien.
C'est du mieux.
6 points. Il y a parmi les clubs qui nous séparent de la 3ème place, il y en a encore 2 qui ont 14 matchs. Donc qui ont un match d'avance. Donc ça aussi, c'est pas mal. Ça veut dire que c'est des clubs qui vont être à portée de fusil peut-être
prochainement.
D'ici la trêve.
Ouais.
Donc peut-être que l'objectif de se rapprocher du podium avant la trêve est possible.
Ce qui est plutôt l'objectif murmuré par les joueurs et par le staff. Hein. C'est l'objectif, c'est à la trêve d'être pas trop loin des premiers, et puis en espérant que l'actionnaire mette la main sur la poche pour se renforcer et jouer la montée.
Ouais, bon, ça reste.
Ce qui reste très hypothétique.
Après, il suffit qu'on perde, on perd le prochain match, on fait nul à la Méno et on oublie. Hein. Mmh. C'est voilà.
Bah, ouais, c'est vrai que c'est un équipe très instable, c'est plus 7 c'est bien, mais c'est un capital à faire fructifier. Et effectivement les prochains matchs, les prochaines semaines, et si pour peu qu'on soit pas trop loin
c'était
à la trêve.
C'était la 13e, 14e journée.
Oui, c'est déjà un bon.
Il reste 26 matchs encore.
Hein. C'est la 13e.
On a joué 13 matchs. Qui est passé, ouais. Ouais.
Il reste.
Un bon tiers, pardon.
Ouais.
Ah, mais il reste quand même 27 matchs.
Ça fait beaucoup un bon tiers.
Oui, mais il y a quand même encore.
Quand même 27 matchs.
Oui, il y a quand même aussi 8 équipes devant nous.
Alors on va parler de l'avenir, des perspectives dans la troisième rubrique. Deuxième rubrique, la rubrique préférée hein, de tous les ch'toubistes, et notre rubrique préférée aussi, la rubrique coulisses, voilà, qui est toujours très remplie.
Ça va coulisser, hein.
Là. Casse-toi.
Ce qui est terrible avec Kidali, c'est que tous les matins, j'allume mon ordinateur, je mets le ch'toub.
Et il y a une autre bêtise.
Et voilà, je me demande pendant 10 secondes, mais quelle connerie il m'a inventé. Je veux dire, l'autre jour j'ai allumé l'ordi, j'ai dit ouais, Camadini qui va rechausser les crampons. Mais qu'il arrête quoi, je sais pas.
Et le lendemain, c'est
fasse autre chose, qu'il joue au Subotevo, je sais pas.
L'open
quoi.
Space.
L'open space.
Le lendemain, l'open space.
A tel point que ce matin, ma copine était déçue parce qu'il n'avait pas fait de conneries aujourd'hui. J'allume l'ordinateur, je regarde.
C'est tous les 2-3 jours qu'il fait une connerie.
Non, c'est l'ordinateur, c'est tous les jours.
Pas tous les jours, tout le temps.
Il y a eu Open Space, Camadini.
Il y a eu la fermeture du COP.
Il y a eu la fermeture du COP. Et ce matin, il a fait quoi aujourd'hui? Je fais. Bah écoute.
Parce que ça me rappelle, hein, ça me rappelle dans les guignols la blague de Michel Denisot.
Il y a quand même Plessis au conseil de surveillance.
Le texto à Fournier pour dire que c'est lui qui va gérer.
Voilà.
Il est sur un bon rythme, hein, quand même.
Il est quand même sur un.
Krebs qui est menacé de se faire.
C'est du dimanche, ça.
Krebs, c'est immense. C'est immense.
Mais ça c'est pas drôle, moi je trouve ça immonde, quoi.
Ouais, mais vaut mieux en rigoler, c'est...
Non, mais de mettre la pression comme ça, le chantage à l'emploi, moi je trouve ça scandaleux, quoi.
Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Moi je préfère me foutre de la gueule de ce mec.
Oui, d'accord,
Je veux dire, si c'était pas mon club, qu'on se marrerait, quoi. Mais c'est incroyable.
Non, on n'aurait rien à foutre si c'était pas notre.
Mais rien que la fermeture du COP, c'est un truc.
Alors, on va y revenir un petit peu justement, on va pas prendre point par point parce que voilà,
il y a tellement de choses, on aurait 3
heures. Premier point, le gros point on va dire, hein, c'était cette histoire de fermeture du quart de virage.
C'est catastrophique.
Donc là, ça nous ramène au match de Fréjus, hein. On est content, on a gagné 2-0, il y a une super ambiance, le COP chantait à la mi-temps, voilà, c'était formidable. Et le lendemain, bah voilà, au moment du café, du jus d'orange, de l'orangina, j'en sais rien.
La vodka pomme.
La vodka pomme, ça dépend ce que vous buvez dans votre écran quand vous regardez le matin. Mais en tout cas, voilà, c'était que sur les coups de 11h30.
Et là, on crache le liquide qu'on était en train de lui goûter. dis, mais qu'est-ce qui fait que ça? Et l'autre qui ferme le cop.
Et là, le communiqué...
Avec plein de fautes d'orthographe, hein, c'est quand même...
Alors comment est-ce que vous avez vécu la lecture du communiqué? Tiens, on va rigoler, quoi.
Moi, j'étais mort de rire.
Voilà.
Moi j'étais mort de rire, enfin
je te souviens où t'étais, tu vois, c'est comme le...
Ah oui, c'est ça, comme c'est comme le 11 septembre, je me souviens pas l'endroit où j'étais, quand j'ai lu ce truc-là, j'étais mort de rire.
Moi j'avais la tête en vrac.
Et pareil, la seule réflexe que j'ai eu, c'est d'appeler mes proches pour leur dire, mais regardez ça, quoi. Sachant qu'appartement, c'est pas que des gens qui suivent le racing, mais rien que d'écrire 8 clos avec 8 comme le chiffre 8, c'est un truc, c'est, en soi c'est hilarant, quoi. Pour un type super financier, etc., enfin c'est...
Mais donc, le gars, il signe même pas son mail en majuscule, c'est-à-dire que Jafar il a lit en lettres minuscules, comme s'il était conscient que c'était grosse...
il sait pas que les mots non propres prennent des majuscules.
Ouais, s'il a oublié un mot, genre, on ne peut un actionnaire...
On ne peut un actionnaire. Ouais, il y a un mot manquant, mais c'est tellement
le mot qui manque.
Le mot, on ne peut, je sais pas, sodomiser.
C'est vraiment le truc envoyé sur une impulsion, comme tu te décides enfin à envoyer cette lettre d'amour à Cindy de la 4ème B, et tu tapes sur envoyer, et trois secondes plus tard, tu regrettes déjà.
Le gros loupard de la récré qui me raquette tous les midis mon 4h. Et je vais le dire à la maîtresse. Mais c'était exactement ça, c'est pathétique.
Je sais pas s'il faut revenir très longtemps là-dessus, parce qu'il y a eu pas mal d'émissions à droite, à gauche.
Oh, tu veux pour rajouter...
Mais juste pour résumer, je pense que vraiment, je sais plus qui l'a dit, c'est vraiment une impulsion, c'est-à-dire que c'est le... Il était fâché, on lui a dit... Il a dû avoir au téléphone, je pense, je sais pas, Witzel ou Corneli, qui a dû lui raconter le match. Ah ouais, ils t'ont un peu insulté. Le public t'a insulté 2-3 fois, il y avait des telles banderoles.
Ce serait à partir d'une vidéo de Stras Télé qu'il aurait entendu.
Ah d'accord, donc il est... Voilà.
Conditionnel,
ah,
mais...
C'est fort possible. Et j'imagine bien, dans un accès de... Il est pas content, c'est son nouveau jouet qui commence à lui casser les pieds. Il prend son BlackBerry Bold, il tape vite fait... Non. On a vu un ordinateur en QWERTY, il a tapé vite fait son communiqué de merde, il l'a envoyé, et le lendemain, c'est la risée du coup.
C'est la risée de l'Alsace.
Et je pense que des gars comme
Pessy... Pas que d'Alsace, parce que les communiqués sont repris...
Voilà, par contre, au niveau, je pense que la sortie de crise, pour le Kidam qui suit pas trop le Racing, qui suit vraiment d'un œil, je pense qu'il se dit, il a une posture présidentielle, il apaise les choses. Mais les gens qui suivent le Racing savent qu'en fait il a fait ça à la va-vite et qu'il s'est rendu compte après coup que c'était complètement idiot et inapplicable. Et du coup il a fait le grand seigneur, mais personne n'est dupe.
Il n'est pas allé assez loin dans son communiqué. Il aurait dû demander la fermeture de tous les éléphants bleus de France. Cette station de lavage que toutes ces choses ont commencé. Quoi.
Tout à fait, tout à fait.
S'il n'y avait pas les trois idiots derrière un drapeau. Tout ce sketch aurait été évité.
D'ailleurs,
le pire, c'est que c'est vrai.
Tu remarques le match d'Oulungan, l'éléphant bleu était bâché à l'envers.
La bâche d'Eric aussi, elle était face cachée en fait.
Moi, ce qui me frappe dans les réactions de Jafar Hilali, c'est l'aspect complètement régressif. Pour moi, il a un problème psychologique, ce gars. Il faudrait le faire expertiser psychiatriquement pour savoir si c'est pas
complètement... Ouais, j'ai ma théorie là-dessus.
C'est un malade mental, le gars.
Moi, je pense pas. Je pense qu'il est, très mal entouré. C'est-à-dire que je pense que tous les présidents qui sont... Il est pas entouré. Mais tous les présidents de clubs de foot sont un peu mégalos, se prennent tous pour des petits dictateurs en herbe. Mais ils ont toujours autour d'eux un gars qui les
temporise les communiqués,
qui les machin. Enfin, même un type comme Roland Véler, il pétait régulièrement un câble, mais à côté, t'avais le Christian Delot qui lui disait du calme Roland, etc. Donc le mec se calmait difficilement, mais il se calmait. Et le Jafar Hilali, finalement, il est comme nous, quoi. Il est seul devant son ordinateur à chaque fois, et puis...
Nous, on n'est pas seul devant son ordinateur.
Ouais, enfin, bon, parfois, on discute avec des gens, entre nous.
C'est quand parfois, il y a un jetuiste qui sort une énormité, et que toi, t'es en train de taper ton long message, t'es en train de t'énerver, tu vas balancer un message, et après, tu te dis, une heure après, tu te dis, mince, c'était ridicule de m'énerver comme ça pour...
Comme la vidéo que tu as postée en réponse au communiqué de Knek Bull.
Je suis désolé d'avoir fait un jour au maréchal, hein, mais le comparer avec l'autre là. Bref.
on va y revenir dans quelques instants.
C'est du bourre noir, hein, c'est du bourre noir.
Ça fait partie quand même de...
Pétain était un salaud, hein, quand même. Mais
quand même.
Oui, quand même.
Quand même. Mais non, mais bon, par rapport à ce quart de virage Oka et la réouverture, après, enfin, pas la réouverture parce qu'elle n'a pas été fermée, mais il y a cette communication toujours cas, on comprend rien à ce qui.
Je crois que c'est Kibitz qui a dit, en fait, c'est le roi du. Il fait un pas en avant, il recule sur Sport 5, ouais, attendez, les saucisses, vous foutez le camp, c'est pas normal, et puis trois mois après, il dit, ah bah non, c'est bon, vous pouvez revenir. Il y a eu sur les faux licenciements, il fout les mecs dehors, après en fait il se rend compte que ah bah non, fallait pas les foutre dehors. Le COP je le ferme parce qu'il est fâché, et puis 4 jours après, ah bah non en fait je le ferme pas. Voilà, c'est une constante.
Déjà, est-ce qu'il pouvait le fermer?
Oui c'est ça, mais
non, il
s'en est rendu compte après. Il pouvait, mais c'était.
Il pouvait le faire, mais ça lui aurait coûté les yeux de la tête.
Ouais, déjà ça, je pense aussi qu'il a dû demander comme l'avis du préfet. Le préfet a dû lui rigoler à la gueule.
Ah ben oui, enfin ça j'ai cru comprendre que la préfecture avait refusé tout renfort de force de police pour cette rencontre, parce qu'ils sont déjà, les pauvres sont déjà assez occupés par ailleurs avec toutes les manifs tous les trois jours.
Ils ont autre chose à faire, hein, ils ont autre chose à faire les gars, quoi. Que d'aller surveiller 300 Pékin dans un COP contre Alfortville, quoi.
Donc apparemment, oui, donc il n'y avait pas de volonté de la part des forces de l'ordre de véritablement faire une démonstration pour ce match-là. Donc à partir de cela, il fallait engager une sécurité privée, et là, ça coûte un max de pognon, parce que...
Alors ce qui s'est passé, c'est qu'après le match de Lungen, dans la soirée, donc c'était dimanche, il y a une semaine environ, cette interview de Jafar Ilani publiée sur le site du COP Ciel et Blanc, et c'est là où il annonce quelque part que... ou alors
c'est non le pas encore, c'est le lendemain.
C'est le lendemain, mais c'est ça qui précipite les choses.
Non mais c'est Knegboul, il a réussi à le convaincre.
C'est Knegboul, voilà. Il faut remercier Knegboul.
Merci Knegboul.
Merci Knegboul, voilà.
Tu as sauvé le Racing.
Voilà. Une petite réaction peut-être sur cette publication d'interview, de communiqué.
Sans commentaire.
Non, mais tout a été dit.
Pourquoi non,
ça oui, non.
Bah, si vous avez envie de
parler,
le micro de Radio Choub est là pour une réaction, hein, parce que c'est vrai qu'on peut réagir.
Bah, enfin, pour avoir essayé de la faire, parce que j'ai essayé de la faire à une époque où Jafar Ilani était encore actif sur le Choub, je trouve que c'est une excellente initiative. Moi, ce qui m'a dérangé, c'est la façon dont les questions étaient posées. C'est-à-dire que la première question, par exemple, c'est « Bonjour Jafar », etc. Enfin, déjà, le prénom juste. Mais ouais. Quand tu t'adresses à quelqu'un, tu t'adresses pas pour une interview, tu t'essaies de faire
c'est
les choses
un peu de façon... Duplessis, mon gars, etc.
Ouais, voilà, ça, on tape sur l'épaule, c'est pas forcément comme ça qu'on fonctionne, parce qu'il l'a jamais rencontré, ou une fois.
Donc... C'est pas le plus important, mais c'est les questions suivantes.
Voilà, ça, mais ça dénote le ton est donné d'entrée. Donc ça, c'était...
J'avais été accueilli violemment.
Voilà, ça, après, il y a
énormément... Quelle violence, hein.
Faudrait faire le compte des adverbes, des adjectifs.
Oui, quatre choix avec les kebabs, c'est... Ça, c'est une violence.
après que Jafar déroule son loogie-boulga habituel, c'est chose faite, mais j'avais trouvé les questions assez... Mais en même temps, ça ne m'étonne pas, parce que c'est la seule forme de communication que Jafar Ilani accepte, parce qu'il est toujours dans ce rapport de séduction, de copinage... Et vas-y que je te balance des infos un peu secrètes, comme ça, etc., pour donner des impressions un peu... on est des conspirateurs, mais finalement, ce type-là n'admet aucune contrainte dans sa communication. C'est-à-dire, soit vous faites comme il voulait, comme il veut, soit il n'y a rien. Et on l'a bien vu, parce que l'interview des DNA qui est venue ensuite, deux jours après, était extrêmement gentille. Alors que Namur avait écrit une semaine avant un papier qui était intitulé « La solitude du but », où il défonçait Jafar Ilani encore puissance 10 par rapport à tout ce qui a pu être fait sur le chou. Alors avec les formes, évidemment, avec un certain style, mais sur le fond, c'est extrêmement violent. Et après, il y a cette interview aussi un peu, pas cirpompe, mais on évite de poser les questions qui fâchent, quoi. Donc c'est la seule chose qu'il peut accepter. Donc c'est dommage que des supporters se prêtent à ça. Qu'encore que des journalistes le fassent, parce que quelque part, finalement, ils sont bien obligés d'avoir leur papier, c'est un coup pour eux. Alors que des supporters se prêtent à ça, je ne vois pas l'intérêt pour eux.
Là, peut-être pour avoir un nombre de clics conséquent sur la page de l'article en question.
Oui, mais quel intérêt
ça les regarde.
Ils y gagnent rien.
À quel intérêt
Non, mais il n'y a aucun intérêt. Non, mais...
t'as vu le film La Chute?
Oui.
Peut-être quand ils sont tous dans le bunker, là, avec les Russes qui vont tous crever dans 8 jours, c'est fini. Par contre, t'as toujours les luttes politiques. Qui c'est qui va prendre la succession du vieux con qui va se suicider? Et t'as toujours ce trip-là, t'as le navire qui est en train de couler, mais il y a toujours les intrigues politiques, et ben voilà, tiens, moi je vais pas être calife à la place du calife, j'ai ça.
Donc en quelque sorte, la démarche de Knegboul, c'est une démarche individuelle.
Bah, tu poses la question, ouais, je pense ça. Non, si bah, ça m'intéresse pas de débattre de ça, franchement.
C'est juste pour préciser l'idée. C'est juste,
au-dessus, le problème, c'est la dualité du KCB, qui est à la fois club de supporters, et aussi site internet, et les deux sont assez distants. Enfin, il y a assez peu de cohérence entre les deux. Et d'un côté, ils veulent exister en tribune, et de l'autre côté, aussi, les mecs du site sont toujours à la... forcément, ils ont un peu le côté journaliste en herbe, et ils sont contents d'avoir leur scoop, et ça, je les comprends.
C'est une bonne guerre, hein,
ça a toujours... Voilà, mais du coup, là, quitte à baisser un peu son froc et à cirer les pompes outrageusement, et c'est ça qu'on lui reproche.
Mais voilà, enfin, le truc, c'est qu'il faut choisir, à un moment, t'es journaliste ou t'es supporter. C'est beaucoup plus facile et cohérent de rester supporter. Et de t'adresser au président ou à l'actionnaire majoritaire de ton club de foot comme un supporter. C'est, finalement, le public qui te lit, c'est un public de supporters à 95%.
J'en ai fait l'expérience quand j'ai interviewé Fontella. C'est vrai que c'est très dur de... C'est une dualité qui est très dure à tenir. C'est vrai que voilà, c'est très facile de critiquer un mec, mais quand on l'a en face, quand on écoute ses arguments, quand on écoute... Et bon, le timing n'était pas le même aussi. À l'époque, on pouvait dire, bon, voilà, on savait pas grand-chose. On attendait la version des choses. Et là, la personne qui a été interviewée, c'était la personne qui avait décidé de fermer le COP et qui menaçait de jouer les matchs à huis clos.
Ouais,
c'est bon, pas la même chose.
En tout cas, c'était... moi, cette interview, personnellement, hein, c'était... j'ai vécu comme un cirage de pompe relativement gerbant, quoi. Donc la personne qui a réalisé cette interview, bon...
Je ne veux pas rentrer là-dedans.
Voilà, je ne rentre pas là-dedans, mais j'estime qu'il y a des choses...
Je ne veux pas rentrer là-dedans, je préfère mettre le fond de l'interview, bon, qui est assez,
ouais,
qui est assez grotesque, quand même.
Il y a quand même quelque chose qui est plutôt intéressant et qui est plutôt à saluer dans toute cette histoire, c'est que finalement, il y a eu une vigilance de la part des gens qui ont bien vu que le truc était... bidonné, enfin c'est une réaction qui a été assez largement partagée.
Il y a eu condamnation large
et je pense,
par rapport à cette initiative.
Y compris, enfin moi ça a été une de mes rares incursions sur le site Ciel et Blanc, y compris sur le site cieletblanc.com, ça a été contesté. Par des utilisateurs.
Par les web rédacteurs.
Voilà, exactement.
Il y a même eu des démissions. Hein.
Donc il y a eu des réactions. Ouais. Après,
des démissions sur le site KCB par rapport à cette histoire.
On pense qu'on veut de l'interview, on pense qu'on veut des gens, etc. Mais au moins, finalement... C'était tellement grossier, en quelque sorte, parce que finalement, ça sautait tellement aux yeux que ça a eu l'effet rétro, comme tout ce que fait Jaffa Realiste. C'est-à-dire qu'il se tente un truc en disant, tiens, je vais essayer de semer la discorde, de faire le tri entre les bons et les mauvais supporters, de favoriser un groupe par rapport à un autre, de favoriser un site par rapport à un autre, mais ça marche pas, parce que les gens se rendent bien compte que les ficelles sont énormes.
Et finalement, il a réussi à vaguement lézarder un peu l'unité des supporters pendant 36 heures, et après, finalement, les gens ont discuté entre eux, et tout est très vite rentré dans l'ordre. Mmh. Donc ça aussi, je suis assez satisfait que tout n'ait pas volé en éclats sur cette espèce de bouffonnerie.
De bouffonnerie, ouais, c'est un peu dire.
Les gens ne sont pas tombés dans le panneau. Ouais, c'est clair, il faut le diviser pour mieux régner.
Ce qui est marrant, c'est avec cette interview, il y a eu deux bouffons, quoi. Intervieweur, interviewé, et finalement...
Encore une fois, je veux pas parler de l'intervieweur, c'est pas...
J'ai eu le sentiment, en lisant cette interview, que c'était vraiment la relation, l'interaction entre un bouffon et un autre.
C'est une initiative personnelle.
C'est une bouffonnerie, comme disait Rachma.
Je sais pas, voilà. Ça peut être par naïveté, tu sais, enfin...
Bref.
Les gens peuvent
foutre. Non,
je sais pas, j'en sais rien, je suis pas à la place des gens. C'est compliqué, mais bon.
Bref, on va pas développer ça davantage. Je pense que les deux acteurs.
Oh, je pense que ton message est passé.
Non, j'ai pas de message à faire passer. Ouais, oui. Moi, ça m'a juste dérangé, comme ça a dérangé beaucoup de monde. Je trouve que c'était normal d'en parler autour de ce micro. On n'a pas été trash, on n'a pas été insultant, on n'a pas été disgracieux. Le message est passé. On va peut-être clore cette page coulisse, il n'y a rien d'autre à dire. Non,
sinon, les bits ne sont pas loin.
Quoique, oui, Rachma.
Je peux raconter ma visite chez Carmoussel.
Qui n'est pas très croustillante.
On va préciser.
Rachma Gonzo reporter à Londres.
On va préciser que tu as passé le week-end à Londres,
voilà,
et que tu as cherché, donc tu étais spécialement... aller à Londres pour chercher des informations. Tu as trouvé des choses très intéressantes. Bon, on va pas tout dévoiler ici, évidemment, parce qu'on va garder ça pour nous aussi. Hein. Mais qu'est-ce que tu peux dévoiler?
Non, mais j'ai profité d'être à Londres pour aller voir. Hein. Je me suis dit, on va aller voir à quoi ça ressemble, Carrousel. Voilà, donc on trouve l'adresse sur Internet. Donc, il y a les bureaux qui sont à Berkeley Street, c'est dans le quartier du Mayfair, quartier très très cossu, très riche, près d'Hyde Park, Oxford Street, bon, pour ceux qui connaissent, et voilà, c'est...
C'est pas de la merde.
Non, c'est vraiment, voilà.
C'est pas mille.
Et donc, il y a un assez... Bon, mais je savais pas du tout à quoi ça ressemblait, donc j'avais quelques idées de petites actions à mener, un peu symboliques, mais j'étais... bon, je n'étais pas entouré de militants, donc c'était aussi...
Ah, il y avait une militante, quand même.
Ah, il y avait
Jess. Ouais, mais qui était assez peu militante, bon, bref. Et puis, voilà, après, ouais. Ça reste Londres, avec ses caméras partout, donc fallait pas faire n'importe quoi non plus. Donc, du coup, j'ai repéré ce bâtiment. Alors, le problème, c'est que c'était un samedi. Et samedi, bah, forcément, les bureaux, les gens, ils y sont pas, en général. Mais alors, c'est un assez grand bâtiment avec plein d'entreprises, je sais pas, 7-8 étages. Et donc, à l'entrée, il y a un gardien avec des tourniquets, donc c'est quand même un très beau bâtiment. Alors, donc, j'ai préparé plusieurs trucs, notamment, j'avais écrit une lettre, je me dis, au cas où, je peux rien faire, je vais quand même demander à remettre une lettre, voilà, où j'avais une lettre signée, hein, je me cache pas, hein, donc respectueuse, mais où... Je lui demande juste de partir.
Ferme,
voilà. Ouais. Quelques lignes, voilà. Vous êtes mauvais. Enfin bref, en résumé.
Allez-vous non, monsieur Jaffar.
Donc j'arrive, je demande
au gardien, s'il vous plaît.
Je demande au gardien, je dis que je veux remettre une lettre à Carousel Bidule, que c'est au deuxième étage. Il me fait ah je connais pas.
Ça commence bien.
Alors là je me dis, énorme en fait, c'est des mythomanes, leur site. Et donc, il dit, comment ça? Donc, j'appelle et tout. Il me fait, ah non, ça me dit vraiment rien. Je dis, c'est au deuxième étage. Et là, sur la plaque, sur le mur, il y a écrit deuxième étage. Il y a un seul nom de boîte. Je crois c'est Agus, enfin, un truc. Et puis après, en fait, il tape dans son ordinateur. Il fait, ah oui, il y a bien un truc qui s'appelle Carousel Finance. Donc, voilà. Non. Mais apparemment, c'est vraiment un petit truc. Hein. Donc, je pense que c'est vraiment...
Ils ont la boîte aux lettres du
nom, mais... Enfin, peut-être pas, mais ils doivent avoir... Non, mais... Moi, je m'attendais quand même à un truc un peu plus... genre des bureaux, quelques secrétaires. Apparemment, c'est vraiment un truc de... Ils doivent avoir...
Ils sont à la cave avec un Mac.
Ça reste un bâtiment extrêmement luxueux pour très grandes entreprises. Mais dans ce deuxième étage, apparemment, il y a une multitude de petites boîtes qui doivent avoir... une piole, enfin entre guillemets, et il m'a dit qu'il n'y avait personne, voilà, et du coup j'ai dit quand même que je voulais remettre une lettre, il m'a dit, il m'a envoyé au service qui réceptionne les courriers, et donc je pense qu'il a été transmis, enfin parce que le mec il s'amuse pas, je pense, à filtrer, c'est pas lui qui filtre, donc a priori ça a dû arriver, voilà, ce qui aurait pu arriver par la poste, mais bon, je trouve que c'était plus symbolique si ça arrivait, pour montrer que quelqu'un s'était déplacé pour ça. Donc maintenant, on va voir, voilà, j'ai laissé une adresse email, j'ai pas eu de news aujourd'hui, mais à mon avis, là, ça a dû arriver. Vu qu'ils sont pas 50 à filtrer le courrier, je pense, vu qu'il doit avoir une pièce, à mon avis, ça a dû arriver.
Mais je pense qu'ils ont une pièce pour l'adresse.
T'as mis de l'anthrax, non?
Non, rien du tout. j'avais imaginé des trucs à placarder, mais je sais pas, enfin, ou des tracts à mettre sur les rétroviseurs des bagnoles, mais il n'y en avait pas. Donc j'avais préparé un peu quelques trucs, mais donc c'est vrai qu'il faudrait refaire une action de plus grande ampleur.
Mais il y a plein, à 50, voilà,
y a plein de choses, il y a plein de choses.
Ryanair, 30 euros l'aller-retour.
Il y a des éléments que tu as pu trouver qui ne peuvent pas être dits ici et qu'on gardera bien pour nous. Donc ils sortiront au moment venu, voilà. Donc,
Quoi.
Non mais on va arrêter là-dessus. Hein, on va passer quand même. Bon, peut-être juste pour terminer là-dessus, la réaction des supporters quand même contre Alfortville.
Ah, très drôle.
Très drôle et très 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 sage, très raisonné, très intelligente. Ça contraste quand même avec la très, bêtise très, du personnage Jaffar.
Très, très drôle la banderole, monsieur Jaffar. Jaffar, s'il vous plaît, partez.
Ouais, ça c'était...
Non, c'est monsieur Ilali.
Monsieur Ilali,
s'il vous plaît, partez.
Voilà.
C'est immense.
Un petit pied de nez, finalement assez ironique, quoi. Donc c'est pas mal.
Ouais, c'est pas mal. Et la suite, comment est-ce que vous voyez ça? Comment ça va se poursuivre?
C'est lui ou c'est nous?
C'est lui ou c'est
bah,
nous,
ouais. Moi, je suis pas d'accord.
Ah, raconte.
Enfin, non, mais si, moi, j'aimerais que ça soit lui ou que ça soit nous. Mais je pense que si sportivement le Racing recolle et joue la montée, voire monte,
ce sera lui et nous.
Mais avec lui, c'est pas possible.
Est-ce qu'il ne faut pas espérer, comme le disent certains, que le Racing perde?
Ah bah, avec lui, c'est pas possible. Lui, son projet, c'est de vendre Matlouti et
effectuer la trêve.
Et de faire rechausser les crampons par donc c'est pas possible. Par contre, je suis persuadé qu'il passe pas l'hiver.
Je suis pas sûr, honnêtement.
Tu penses que Jaffar Ilali ne sera plus là au printemps? Donc est-ce qu'on pourra faire comme les enfants, brûler le bonhomme hiver?
J'espère, mais... je ne peux pas ne pas imaginer, bah, déjà, ce gars resté.
Mais ça veut dire que t'as quelqu'un qui reprend.
Ouais.
Bah ouais, mais ça bouge, il n'y a rien, quoi.
Bah, ça bouge pas publiquement, mais...
Ah, mais est-ce que tu as des infos comme quoi ça pourrait bouger en coulisses?
Non, c'est une intuition. Voilà,
voilà. Une intuition.
C'est une intuition.
Il y a Astroti, mais
je ne peux pas ne pas imaginer que ça ne trotte pas à l'idée de certains.
Moi, je passe un truc, c'est en juin, c'est pas avant.
Voilà, c'est ça. Enfin, là-dessus, je suis d'accord. Honnêtement, pour moi, tout le monde joue la stratégie du dépôt de bilan. Parce que s'il y a un dépôt de bilan, tu reprends la chose.
Ah, tu vas encore me déprimer avec ton dépôt de bilan.
Bah oui, mais je quand il y a autant de casseroles et de trucs... Donc non, je vois très mal. Non, honnêtement, et puis le truc, c'est que effectivement, les victoires et le milieu sportif lui font gagner du temps, parce que ça donne des arguments aux fameux adeptes du wait and see qui reviennent dès la moindre victoire.
Dès la moindre journée sans conneries d'Idali.
Et ça veut dire qu'il faut espérer que le Racing perde, c'est ce que tu es en train de dire, quoi. Il faut espérer que le Racing ne monte pas.
Attends.
Mais non, mais... C'est ce que... Si on veut...
Dans l'absolu, il faudrait combien pour reprendre le Racing, en termes de thunes?
Là, il faut énormément d'argent.
15 millions?
Ouais, peut-être. Ouais. Enfin, pour vraiment relancer la machine, remonter, etc. Oui, c'est dans
millions.
Ce genre de là. Parce qu'il y a des litiges
énormes.
Est-ce
que tu penses qu'en Alsace, il n'y a personne qui soit capable de mettre 15 millions? En Alsace,
c'est pas une question. C'est pas une question de capacité, c'est une question d'envie.
Hein? Une seule personne, je pense pas. Après, oui, il y a un énorme tour de table.
En Alsace, qui est une des régions la plus riche de France.
Ouais, enfin, qui est une région qui est aussi marquée par la crise comme d'autres.
Pourquoi pas, moi c'est une idée qui me vient, mais pourquoi pas aller voir du côté de l'autre côté du Rhin, en Allemagne, peut-être que dans la région limitrophe du Bade-Württemberg, il y a des gens qui ne s'imaginent même pas qu'il y a un tel potentiel.
L'autre, au lieu de reprendre Hoffenheim, il ne voulait pas reprendre.
Et voilà, pourquoi est-ce qu'on ne contacte pas créer...
Non, mais c'est...
Je sais pas.
Moi, c'est ça, dans l'absolu, 15 millions... c'est le tarif d'un gros transfert. C'est ce que je veux dire.
Ouais, bah oui.
15 millions, c'est...
Mais toi, tu penses que c'est possible
Penses
qu'il est possible de trouver un investisseur à 15 millions d'euros pour reprendre le Racing?
Tout à fait.
D'accord. Ah.
Je vois pas pourquoi ça serait pas possible.
En Alsace, moi, je pense que c'est pas possible. Et autour, après, un Saoudien qui rêve de...
Mais je te parle pas de forcément un Saoudien.
Mais il y a même pas un Saoudien de se payer
le
Racing.
Voilà, c'est ça. Mais le truc, c'est qu'il faut se rendre compte que des clubs de foot... à vendre en ce moment, il y en a plein. Parce que la crise économique est venue, donc il y a beaucoup moins de revenus au niveau des loges, des partenariats, parce que les droits TV sont en train d'entamer une pente descendante, parce qu'il y a beaucoup de clubs qui ont pris des positions très très fortes et qui maintenant se trouvent très mal barrés par rapport à l'endettement qu'ils ont. Donc des clubs de foot à vendre, il y en a. C'est pas le problème. Et le Racing, c'est un club de foot... parmi 40, 50 ou 60 sur la scène européenne. Et c'est vraiment pas celui qui est dans la meilleure position, de loin. Donc si le type il veut racheter un club de foot, il ira d'abord, et qu'il n'a aucune attache régionale particulière, il ira d'abord se pointer à Southampton, à Portsmouth, quelque part en Suisse, ou en Allemagne, ou en Espagne.
Quasiment en Suisse et en Allemagne.
Ben quasiment, mais quasiment on n'y est pas. Enfin, c'est...
Si on accepte de jouer la Bundesliga ou la, ou la Ligue Suisse.
la Challenge League.
Imagine toi des derbies Strasbourg-Bâle en championnat suisse.
Il y a quand même un truc, c'est que Strasbourg, c'est quand même pas un club qu'on a un autre.
Moi je trouve que personnellement, moi je suis investisseur pour acheter un club de foot. Quelque part, si je suis au courant un peu des données, moi je pense que Strasbourg, ça reste un super coup. Ça reste un super
coup.
Ça reste un super potentiel.
Il y a un an, c'était un super coup. L'Oban et compagnie, ils ont acheté au bon moment.
Bien sûr.
Après genre 2-3 mois, un club qui va pas bien en Ligue 2.
Ça reste un super coup.
Non, national, avec au bord du gouffre, avec des procès de partout, c'est plus une bonne occasion.
Non, parce que au point où on en est, le bon coup, c'est d'attendre que la structure qui est endettée, qui a tous ses litiges, se casse la gueule, et de récupérer ce qui est vraiment important.
C'est la théorie.
C'est la marque et l'affiliation à la FFF. Et celle-là, tu peux l'avoir pour rien du tout en juin. Donc pourquoi est-ce que tu vas sortir du pognon maintenant?
Pour couper l'herbe sous le pied aux concurrents qui attendent justement juin pour
prendre le club. Est-ce qu'il y a autant de concurrents?
C'est ce qu'a fait Idali l'an dernier,
voilà,
avec le pôle d'Alsace.
Sauf que là, ça coûte cher.
Il faut un autre Idali, ce serait bien qu'il soit plus compétent pour le coup, qui rachète ce club, quoi.
Ah mais pour moi la solution elle est régionale.
Mais sauf qu'Ilali, il est officiellement n'est absolument pas vendeur, quoi. Il le répète, il le dit, je suis là pour 10 ans.
Il peut pas rester.
Oui mais
il peut pas rester.
Le seul espoir, si Nestlé était vendeur, Ilali n'est pas vendeur.
Le seul espoir c'est que son discours soit un discours de façade pour
ce qui est probable,
en fait, faire peut-être un peu monter les enchères et qu'en coulisses ça... Mais en fait, toutes les indications qu'on a, bon c'est pas tout, mais montre que, enfin, disent qu'en coulisses il se passe pas grand chose normalement, a priori.
A priori.
A priori il se passe pas grand chose.
A priori, ouais,
c'est ouais, mais donc c'est quand même...
Moi je suis persuadé du contraire, moi.
Avec qui?
Kings?
Non mais je sais
avec
pas.
Avec
Kings? Là on l'entend plus lui.
Peut-être que justement il prépare...
Le silence assourdissant.
Et si Jackie Kings préparait un coup?
Ouais.
Bah Grèce est pas au courant.
Il prépare un casse, c'est ça?
Oh, vous êtes, voilà. vous êtes mauvaise langue.
Je suis pas mauvaise langue.
Non, mais peut-être que Kings avait une idée derrière la tête
l'an dernier, il avait une idée derrière la tête, ouais.
On n'a pas parlé d'Alain Fontainela.
Alain Fontainela, l'ami de Conan, mon ami
qui
Alain,
va être remplacé par
le prochain livre de Conan, d'ailleurs.
Qui va être remplacé par Jean-Claude Pessier au
Conseil de surveillance.
Donc là, on se demande vraiment ce qui... quelle influence aura... Enfin, voilà. C'est vraiment la porte de sortie.
Et il se murmure que Knek Bull ferait son entrée au conseil de surveillance.
Mais non, c'est des...
Bon, enfin bon, ça c'est des rumeurs qu'on a, on ne peut pas dévoiler les sources parce qu'on a quand même des sources très, très bien informées et on ne veut pas surtout les trahir.
Non mais là voilà. C'est de la diffamation que tu fais.
Comment ça, de la diffamation? C'est pas de la diffamation, c'est juste une source, quoi.
Après, il n'y a pas de fumée sans feu, tu me diras.
Voilà. Non mais...
je n'accrédite pas...
Mais il y a aussi une échéance très importante qu'on n'a pas notée, c'est la DNCG du 15 novembre. Il y a un passage devant la DNCG le 15 novembre.
Mais Ilali a dit que tout irait bien, c'est ça,
hein. Oui, il dit ça à chaque fois.
C'est ce que disait Plessis également.
Dayan.
Tout va toujours bien, tout va bien, madame.
Tout va très bien.
Donc l'avenir, effectivement, il est tout à fait incertain.
Bah, c'est peut-être là que ça va se jouer. Hein.
À la DNCG? Qu'est-ce qui peut se passer à la DNCG? Est-ce qu'il peut y avoir une...
Qui passe pas et que qui soit tellement.
Mais pourquoi pourquoi ça passerait pas cette fois?
Bah je ne sais pas.
Parce qu'il met pas de thunes. Parce que c'est un gouffre.
Non parce qu'apparemment il dit qu'il a bloqué le podium qu'il fallait pour.
Mais il dit ça à chaque fois. Mais il dit ça à chaque fois.
Ouais.
Il dit ça à chaque fois.
Non non, les autres fois il disait ce podium là c'est pas la peine de le mettre, il dit des conneries, je le mets pas. Là le podium est mis, d'après ce qu'il dit, peut-être que c'est faux.
D'après ce qu'il dit.
Mais donc,
j'ai aucune confiance en ce
qu'il dit. On va poser la question à Astro Team qui s'est absenté pour une raison professionnelle. Justement, il y a des infos qui tombent actuellement.
Pour aller pisser.
Voilà. C'est quoi l'info?
La DNCG, voilà, la DNCG du 15 novembre. On aimerait savoir comment ça va se passer selon toi.
Bah, a priori, on est censé avoir assuré quand même une bonne partie de la saison en déposant de l'argent en compte courant. Maintenant, il y a un paramètre qu'on ne prend pas forcément en compte, mais qui va... entrer un moment dans le jeu, c'est que on a continué quand même un petit peu à se foutre de la DNC, c'est-à-dire qu'on a payé des mecs dont les contrats n'étaient pas homologués et on continue à payer des mecs dont les contrats ne sont pas homologués.
Qui ça?
Bah Betch par exemple. Mmh. Comment est-ce que la DNCG va réagir par rapport à ça?
Betch et Abadi sont payés.
Alors Abadi je sais pas, mais Betch oui a priori il reçoit des sous.
Et on fait signer des contrats amateurs.
Et on fait signer des contrats amateurs contournés, etc. Voilà. Donc se démerde pour payer des gars sans qu'ils soient sur la messe salariale pro. Comment est-ce que ça va plaire à la DNCG? Donc ça c'est déjà la première question.
Parce que tu parles de fin de saison avant. Mais finalement, la fin de saison, ça peut être le 15 novembre, quoi.
Je suis pas sûr parce que la DNCG y est quand même allée assez fort en début de saison avec l'histoire des 3 millions. A priori, ils nous ont demandé en début de saison pour... Là, c'était la condition de notre inscription, au final, hein, parce qu'on a été rattrapé par... vraiment à la dernière minute par la Manche. Ils nous ont demandé de garantir d'avance l'argent de toute la saison pour pouvoir tenir toute cette saison. Ce qu'on a fait, au final, après tous les palabres qu'on sait. Donc, je ne sais pas s'il faut nourrir d'énormes craintes. Par contre, c'est possible... Et c'est même probable qu'on soit interdit de recrutement pour le mercato.
Est-ce que ça veut dire que forcément il y aura des départs et pas d'arrivée?
Bah oui, si on est interdit de recrutement.
Mais quel est l'intérêt d'Ilali de faire ça? Parce que s'il veut rester, s'il veut un jour...
C'est une question qui est extrêmement complexe parce qu'en final, quand on remarque tout l'argent qu'il a mis, et qu'il a toujours tardé à mettre, s'il l'avait mis plus tôt...
Mais oui,
il s'en serait toujours bien mieux sorti.
Mais le problème,
finalement, si l'argent qui a été mis tu regardes le cumulé depuis ces 10 ou 11 mois, si il avait fait ce qu'ils avaient dit au départ quand Julien Fournier est arrivé, on lui file 10 millions pour relancer la machine, et qu'on avait effectivement fait un bon mercato d'hiver en Ligue 2 et pas les Moldaves à Eisenhower, on serait peut-être en train de jouer à la montée en Ligue 1 à l'heure qu'il est.
Ouais.
Et tout le monde serait content. Et à chaque fois, il a temporisé comme un malade pour faire les choses. Et c'était clairement pas dans son intérêt. Mais c'est-à-dire que tout le monde a essayé de lui expliquer que quand la DNCG te dit « Tu fais ça », le but, c'est pas de dire « Oh non, la DNCG, elle est méchante et je vais essayer de gruger. » C'est tu te plies à ses exigences parce que c'est elle la patronne et tu fais comme elle dit. Mais à chaque fois, il a essayé d'y aller et c'était contre l'intérêt. Pourtant, il l'a fait quand même. Donc,
ce ne serait pas volontaire, finalement. Ce ne serait pas une stratégie machiavélique.
Non, c'est parce qu'il est bête.
C'est parce qu'il est bête.
Bah, je vois pas l'intérêt.
Ouais, moi non plus. Moi non plus, mais
parce que,
on peut envisager toutes les hypothèses à ce niveau-là.
Ou alors, il a un problème de liquidité. C'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est peut-être quelqu'un qui a effectivement beaucoup d'argent. Mais par contre, il est peut-être dans des positions, d'un point de vue financier, qui sont pas forcément faciles.
Il a peu d'argent disponible, en fait.
Voilà, ça. Il a peut-être éventuellement des prises de position.
Il a des actions en bourse, donc l'argent est peut-être bloqué. Enfin, je sais pas comment il fonctionne, mais il a peut-être un certain nombre de capitaux bloqués. Et il peut mettre sur la table...
Des actions, c'est un truc que tu peux vendre au jour le lendemain.
Pas des actions, mais je sais pas.
Il y a des produits dérivés, si tu as des options, ou des choses comme ça. C'est pas des trucs que tu débloques du jour au lendemain, parce que tu peux y perdre beaucoup d'argent. Si par exemple, ou si tu as acheté des actions par couverture, c'est-à-dire que tu les achètes sans avoir l'argent, que tu empruntes en espérant que l'action va monter, ce qui est un peu le grand jeu à la bourse, ou ce qui était le grand jeu avant le crack de 2007. Donc peut-être qu'il n'a pas forcément à chaque fois l'argent immédiatement disponible pour le mettre, et qu'à chaque fois il est obligé de prendre un peu une ou deux semaines pour essayer de voir un peu, de jauger en fonction des marchés, des obligations que lui il a par rapport à des banques ou par rapport à des courtiers, c'est peut-être ça aussi.
Ouais, donc il est pas si riche que ça peut-être.
Mais c'est toujours le problème, c'est que t'es dans la virtualité. Oui. Toutes ces histoires de bourse.
C'est que peut-être qu'il a. C'est quand il dit ouais non, c'est des conneries, ça sert à rien de mettre le pognon, en fait, c'est que peut-être qu'il est convaincu qu'il faut le mettre, mais qu'à ce moment-là, il peut pas tout de suite le débloquer, et qu'il va battre le rappel pendant une semaine comme un fou pour essayer de récupérer ce pognon-là.
Ouais,
peut-être que c'est pas assumé comme stratégie, c'est qu'il n'a pas les liquidités, en effet.
Je pense, ouais.
Ça doit être ça. Après, il dit aussi, je sais plus, c'était Louis Fontana qui disait, le financier, quand on lui demande de payer quelque chose, il paye le plus tard possible.
Mais ce qui est... ça, il essaye d'appliquer des recettes qui fonctionnent plus ou moins dans le monde de la finance, au monde du foot et au monde réel. Et c'est ce qu'il expliquait en février dernier dans un post mythique d'Arius Live
sur YouTube,
la théorie du chaos. C'est qu'il disait, tu as sans doute entendu parler de l'imagination débordante des financiers de la City. Eh bien la théorie du chaos c'est ça, c'est foutre la merde volontairement, c'est ce que fait Alain pour créer un choc psychologique pour faire en sorte de remonter l'équipe.
Sachant que la théorie du chaos, voilà. C'était un truc qui était à la mode à la fin des années 90, début des années 2000, et qui depuis, enfin, plus personne n'y croit sincèrement. C'était l'histoire de l'effet de battement d'aile du papillon et de la tempête, enfin, ce genre de choses. Ça a été un truc dont tout le monde a parlé à tort et à travers, et surtout à travers pendant 2-3 ans, mais il y a quelques années. Enfin, donc, ouais, je sais pas. Honnêtement, j'ai l'impression qu'à chaque fois, enfin, au final, on est... à la fois confronté à un mélange d'extrême sophistication, parce que je pense que ce type-là a fait fortune dans des opérations qui sont quand même une certaine sophistication du point de vue de...
technique.
Du point de vue technique.
De l'ingénierie financière.
Voilà, pour reprendre ce fameux terme d'ingénierie financière, et en même temps de réactions qui sont purement primaires, et qui relèvent vraiment
du primate.
De querelles de bac à sable.
Ouais.
Peut-être pas du primate, mais de querelles de bac à sable, quoi. C'est-à-dire que, ah tiens, l'autre, il dit que mon château, il est pas beau, je vais lui taper un grand coup de pelle sur le sien, enfin, c'est ça, quoi.
Ouais, enfin, c'est le mot-clé qui résume un peu tout ça, c'est virtualité. Je crois que on est dans une virtualité, c'est même... on est aux frontières du réel, hein, c'est vraiment...
Apparemment, il a envie de concrétiser le truc, ouais. Et de s'investir davantage physiquement, et jeudi, il va venir,
il va se faire insulter, il va repartir. Enfin bon, on va voir que...
Pourquoi il y a quoi jeudi?
Il y a peut-être un...
Il va aller faire un speech à l'équipe.
Ah ouais?
Ouais, enfin à l'équipe, aux joueurs du Racing.
Il y aura peut-être un comité d'accueil, hein, je sais pas.
Ah, il verra par une porte dérobée.
Djibic qui va lui mettre une tête.
Alors peut-être Milo qui aura passé un coup de fil à Ivan Bogdanov, histoire de mobiliser quelques gars pour faire un petit accueil chaleureux à Jafar Hilali.
Ils vont lui dire que c'est un Albanais.
Voilà. Ne rentrons pas dans ces querelles géopolitiques, ce serait trop compliqué. Alors, peut-être un petit mot, on va conclure bientôt, parce qu'il y a 1h04 d'émission. Hein, c'est...
Sans quiz.
Ouais, sans quiz, donc on va... Sur l'avenir, parce que malgré tout, je sais pas, on est peut-être pessimiste ou optimiste, mais on y croit quand même, parce que sinon on serait pas là. On y croit, on croit en Racing. Vous croyez en quoi, en fait, vous ? Tiens, une question un peu surnaturelle, si on est aux frontières du réel. En quoi, quand tu penses au Racing, tu crois en quoi, toi ? Sporting.
Moi, je crois en la force, quand même, d'une institution qui a... Enfin, et puis pour parler en termes plus prosaïques de financiers, en la force d'une marque qui a quand même fait rêver des milliers, des dizaines de milliers de gens il n'y a pas si longtemps, qui est sur un espace qui est relativement vierge parce qu'il n'y a pas d'autres clubs de football professionnel en Alsace, qui est quand même une région avec une identité assez forte. Donc je crois en ça. Je me dis que finalement, c'est ce qui est le plus important, c'est-à-dire quelque chose qui, dans l'esprit des gens, même les gens qui n'en ont rien à branler du foot, ils savent ce que c'est le Racing. Et ça, finalement, vous allez dans d'autres régions, vous demandez à des gens qui n'en ont rien à foutre du football, vous leur donnez le nom du soi-disant club phare de la région, c'est pas évident qu'ils percutent tout de suite. Par contre, en Alsace, 95% des gens vont percuter. Même si c'est pour dire des conneries, ou rigoler, ou se moquer, etc., ça, ils le connaissent.
Il n'y aura pas d'indifférence.
Voilà, il n'y a pas d'indifférence. Donc ce potentiel-là, il existe. Il est sous-exploité, il est notoirement sous-exploité depuis 20, 30, voire depuis 110 ans. Mais il existe. Donc c'est en ça que je crois. C'est-à-dire que même si on repart de très bas, le plus important est là. C'est-à-dire qu'il y a un potentiel au niveau du public. Et au final, le football, ça reste une histoire de public.
Conan, tu crois en quoi, toi ?
Bah, ce qu'a dit Strotim, moi je crois également au miracle sportif. C'est-à-dire que, au fond de moi, je crois que cette équipe est capable du miracle. Je parlais tout à l'heure de la montée, ça aurait été un exploit. Je pense que ces joueurs-là, avec cet état d'esprit-là, cet entraîneur-là, je pense qu'il y a beaucoup de conditions réunies pour l'exploit. C'est-à-dire une montée, une remontée en Ligue 2, envers et contre tout.
Et si on monte, Jafar reste, quoi.
Ben, c'est à voir.
C'est à voir, donc l'avenir qui reste ouvert. Mmh. Rachma, toi, tu crois en quoi ?
Un peu comme Strotim, mais sinon, peut-être un peu moins optimiste que Conan sur le côté sportif. Et surtout que pour une fois, enfin moi, ça m'embêterait que ça marche avec Jafar aussi, enfin que ça marche.
Ce serait pas normal. Ça marche. Ce serait pas normal si ça marchait avec Jafar.
Parce que là si on va gagner 5 matchs, il va dire que c'est grâce à lui, alors que je suis intimement convaincu que c'est faux. Même les, je pense, les joueurs,
tout le monde
sont d'accord pour dire qu'il y a absolument pour rien. Au contraire, là, le Racing joue avec des contraintes, quoi, avec un actionnaire qui joue contre son camp.
Mais tout le monde sait que c'est un boulet. Tout le monde sait que c'est un boulet.
Donc contre... non, l'idéal, ça serait qu'il y ait un miracle sportif et que du coup le club reprenne un tout petit peu de valeur et qu'il arrive à se mettre d'accord avec des gars pour et que le Racing soit en D2 l'an prochain avec quelqu'un d'autre que...
Ça, c'est le beurre et l'argent du beurre.
Voilà, mais je ne sais pas si c'est possible.
Bah, ouais.
Mais tout le monde sait que c'est un boulet, les joueurs en premier. Mais par contre, on a une chance au Racing, on a un très grand entraîneur.
Ouais, c'est vrai que...
Qui, jusqu'ici, arrive à protéger son groupe, arrive à prendre sur lui-même, parce que lui, je pense que Laurent Fournier, c'est quelqu'un de très ambitieux. C'est quelqu'un qui a une carrière de joueur assez exceptionnelle.
C'est quelqu'un d'ambitieux, mais pas ambitieux type bling-bling. C'est-à-dire, c'est pas le gars... C'est pas Mourinho qui veut gagner une Ligue des Champions dans chaque pays, quoi. Ouais. C'est un gars qui est ambitieux, on va dire, par rapport à son propre potentiel et partir de rien pour arriver quelque part.
Et moi, ce que j'admire chez lui, moi, c'est quelqu'un, je l'ai jamais entendu se plaindre. Il a toujours le sourire, il pousse les gueulantes quand il faut, mais voilà, il parle que de sport. Il protège son groupe.
C'est vrai que sans un mec comme ça, on en serait où ? On serait 20e, quoi.
Avec Janin.
Mais c'est vrai que le jour où Fournier sera plus au Racing, je pense que ça vaudra le coup d'écouter son histoire. Ouais. Je pense qu'il aura des sacrées histoires à raconter sur son rapport avec la
Ligue. Je suis pas sûr qu'il ait envie de parler parce que...
Non, mais là, actuellement, non. Mais non. Si un jour, dans 10 ans,
ouais,
20 ans, il écrit un bouquin...
Ouais, mais même sur le PSG, et pourtant il en avait vertes et des papiers sur le PSG, il a vraiment été pris pour un con. Il n'a jamais déballé. Je pense que ce type-là, il a vraiment l'esprit club. Et surtout, il a quelque chose... Finalement, il est très très rétro. il est complètement à rebrousse-poil de la tendance des entraîneurs actuels. C'est-à-dire que il a déjà une première chose qu'il te dit quand tu discutes un tout petit peu avec lui, c'est lui il s'occupe de terrain. C'est-à-dire que son boulot, c'est de placer des cônes sur un terrain, de placer des ballons et de faire que, en sorte que les mecs s'entraînent bien. Le reste, ce n'est pas son problème. Il se contrefout de la communication, des transferts, de
la... Je pense pas qu'il s'en contrefoute. Je pense
il te le dit franchement. Il s'en fout.
Ouais, il le dit parce qu'il va pas dire que c'est pourri la situation, sinon il se fait virer, quoi.
Non, mais il considère que ça fait pas partie de ses prérogatives. Lui, c'est vraiment l'entraîneur à l'ancien, c'est-à-dire que c'est un type avec un jogging, il a 15 gars, et ouais. Il faut qu'il fasse ce qu'il s'entraîne en soi. Donc déjà, ça, c'est extrêmement... Enfin, par rapport à des entraîneurs comme Furlan, qui te... Dès que tu leur poses une question, les types te sortent une tirade sur le football moderne, et patati, et patata, etc. Lui, au final, il parle que de ballon. Donc déjà, là-dessus, il est assez vieux jeu. Et assez de... sur son côté, après, c'est un type qui a l'esprit club. C'est-à-dire, ce mec-là, finalement, c'est le plus récent...
C'est un passionné, quoi. C'est le plus passionné récent... de football, tout simplement.
C'est le plus récent au Racing. Et au final, c'est quand même celui qui défend le plus l'esprit du club, dans le sens où, ben voilà quoi, on n'est pas là pour se cacher, on va assumer. Si on fait des conneries, on le dit, on s'engueule. On parle que de ballon, on évite de se perdre dans des querelles dans tous les sens. Parce que honnêtement, il aurait déjà eu 15 fois l'occasion de ruer les brancards contre son actionnaire. Et même les supporters auraient applaudi s'il l'avait fait.
En tout cas, c'est la seule action positive de Plessis, hein, c'est d'avoir cherché Fournier. Quoi. Y a pas...
Pour moi, c'est le meilleur entraîneur qu'on ait eu depuis que je suis le Racing.
Ça, c'est...
J'en suis persuadé.
Est-ce que vous chantez le manche de Duguay Pérou il y a peu
Ah, j'adore Duguay Pérou. Mais lui, ce qu'il fait avec ce groupe-là, dans ces conditions-là, bah, chapeau. Quoi.
C'est vrai que moi, je place bon, Chiles en premier. Après... Ouais, Fournier,
il y a Azek
aussi, Azek, ouais.
C'est un peu tôt,
moi j'aimais beaucoup Azek aussi.
J'aimais beaucoup Azek, j'aimais beaucoup Duguay Pérou. Pour moi...
Mais c'est un grand, c'est un entraîneur
Je suis persuadé qu'on dans ce vaste merdier, on a une perle.
Ouais.
C'est lui.
Et il y a des qualités qui au final sont peut-être plus appréciées que chez nous. Enfin, j'aime pas trop le discours culturaliste, mais là je pense que c'est vrai. Plus apprécié chez nous qu'à Paris, c'est-à-dire le côté je me plains pas, je bosse, enfin, pas forcément en Alsace, mais de manière générale dans l'Est de la France, les gens qui sont un peu taiseux comme ça, qui se concentrent sur leur boulot, qui évitent de se plaindre et qui sont pas très, très show business, c'est quand même quelque chose qui passe bien chez nous, quoi. C'est-à-dire que il y a des valeurs d'abnégation, de modestie qui sont assez présentes. Pour en avoir un tout petit peu discuté avec lui, Fournier, c'est quelqu'un qui reconnaît très sincèrement, qui se demande assez souvent s'il n'a pas fait une connerie en devenant entraîneur. Parce qu'au final, il a enchaîné quand même plutôt pas mal de trucs assez galères. Et est-ce qu'il n'aurait pas été mieux à faire des séminaires d'entreprise ou à cachetonner pour Canal+, ou ce genre de choses? Le type, il se pose la question. Et le fait qu'il te dise ça alors que tu le connais depuis 20 minutes, je trouve ça assez sincère de sa part. C'est-à-dire qu'il se cache pas derrière non plus des grands discours. Mmh. Mais en même temps, effectivement, il y a cet amour du terrain, de la pelouse. Et je me rends compte qu'au final, ce qu'il le ramène, c'est pas l'argent. Parce qu'au final, il ne doit pas gagner des milliers de cents au Racing. Et puis, il prend surtout pas mal de pelles dans la gueule dans sa carrière. Et au final, ce qu'il aime, c'est bah, voilà, quoi, un rectangle vert, 15 gars, un ballon.
Bah, comme dit, hein, on peut faire le parallèle avec sa carrière de joueur, où il était effectivement dans cette même dynamique d'abnégation et de précocité aussi, parce que c'est quelqu'un qui, à 16 ans, était déjà sur les terrains avec les pros. Quoi. Donc c'est quelqu'un qui, de grande qualité, ça j'en suis évidemment convaincu, c'est peut-être lui qui va faire en sorte que le Racing survivra.
Moi, tous mes espoirs sont sur lui.
Voilà. C'est une lourde tâche, en tout cas, ce qu'il a apporté.
C'est une lourde tâche, mais vraiment, je suis rempli d'admiration pour ce mec.
Voilà, donc on va suivre ça de très près. Je ne sais pas, pour donner des pronostics par rapport à l'avenir, c'est très difficile. Mais
très peur que l'autre naze et il le vire sur un coup de tête, il va écrire un communiqué.
Je pense que la crainte à avoir, c'est pas ça, c'est qu'ils vendent les dernières forces vives au mercato. Je pense pas qu'il virera Fournier.
En tout cas, si on rejoint un peu l'idée que si on monte, il va rester, il vaut mieux qu'on monte pas et qu'on fasse une bonne saison quand même, qu'on reste en national et qu'ils se disent que à un moment donné, il faudra qu'il parte. Enfin bon, bref, on va pas. Ça sert à rien de tirer des plans sur la comète pendant trop longtemps, je crois que
c'est compliqué, on a resté là. On a aucune visibilité au final.
Oui, c'est ça.
Même, au final, tu regardes, beaucoup de supporters, à l'heure qu'il est, dans beaucoup de clubs de France, doivent déjà être en train d'envisager la saison suivante, pour peu que leur club soit pas en course pour la montée ou pas pour la descente. Enfin, t'es supporter de Sochaux ou ce genre de choses, tu te dis, tiens, qu'est-ce qu'on va faire la saison prochaine? Nous, c'est impossible, on sait même pas ce qui va se passer dans deux semaines.
C'est vrai qu'il peut péter une pile à tout moment, il peut...
C'est même pas qu'elle sera, la surprise de demain matin. Ouais.
Mmh. Oui, c'est... Voilà, donc demain matin...
Dissoudre le Racing Club de Strasbourg.
Vous pariez sur quoi
et on a oublié le Racing Club de Strasbourg, Alsace. On y arrive au tout.
Ça m'a mis hors de moi, mais alors franchement...
Pourquoi le Racing Club de Strasbourg, Alsace? Tu disais avant la région, le Racing, l'identité régionale. Pour une fois, tu fais quelque chose de bien, quoi.
Mais c'est pas, enfin...
C'est juste pour le débat. Hein.
Je sais que tu fais l'avocat du diable, mais...
l'Alsace, c'est la région d'implantation du Racing.
C'est la région d'implantation du Racing.
De quoi tu te plains encore?
Mais c'est justement, c'est quand on ressent le besoin de proclamer les choses et de les afficher, c'est justement qu'en fait, c'est là qu'on est le plus fragile, en fait. Parce qu'au final, que Strasbourg soit la capitale de l'Alsace, et le point de référence pour tous les Alsaciens, c'est quelque chose qui va presque sans dire. Mmh. Que la cathédrale de Strasbourg soit la plus belle église ou même bâtiment de toute l'Alsace, on n'a même pas besoin de le dire, on n'a pas besoin de l'appeler la cathédrale de Strasbourg Alsace.
Ah oui, oui.
Donc c'est un aveu de faiblesse.
Enfin,
c'est au moment...
C'est quelqu'un de très faible, Jafar Ilaï.
C'est au moment où on est le plus proche des autres clubs, c'est là qu'on est... dans la même division que Colmar, on est à une division de Mulhouse qui ne nous est pas arrivée depuis 10 ans. Que lui, il ressent le besoin de proclamer Alsace.
Non, mais il s'est dit, j'ai fait de la merde avec les supporters la semaine dernière en fermant le top. Allez, je vais passer un petit coup de pommade, je pense que ça, ils vont adorer. Mais en fait, pas tant que ça, quoi. Donc, en fait, on s'en fout.
Voilà, ridicule jusqu'au bout, Jafar Ilaï. Merci d'être venu à Strasbourg. En tout cas, on aura bien rigolé. On n'aura peut-être pas progressé sportivement, mais on aura bien rigolé. Donc, comme dit, les meilleures représentations comiques ont forcément une fin. Donc voilà, à toi de tirer le rideau, Jafar, on attend que ça. Voilà, on va... la page Jafar Ilaï, pardon, on va par rapport aux deux prochains rendez-vous du Racing, Reipertswiller samedi à 17h.
Match piège.
Allez, un petit pronostic rapide ou un petit avis, une petite...
Moi je pense que ça va être très difficile parce que Reipertswiller c'est quand même deux ou trois crans au-dessus de Lungen. C'est plus ou moins du niveau de Bissheim, c'est-à-dire des bonnes équipes de DH bien soutenues par leur environnement local qui de temps en temps vont se mêler aux joutes du CFA2. Vraiment l'équipe piège à aller jouer en plus chez eux un samedi à 17h, il fait froid, c'est dans la forêt.
Il y aura les bûcherons avec leur...
Il y aura 17h, le
match. Ouais, 17h, ouais. Nos joueurs ne seront pas forcément super, super motivés. Déjà l'an dernier contre Bissheim, qui était un peu le même profil d'adversaire, on avait eu du mal avec notre équipe de L2, donc là avec notre équipe de nationale, à mon avis, difficile. Donc si on gagne 1-0 sur un but de raccro à la 80e, au final je serais pas mécontent.
Conan.
Pareil,
photocopie. Rachmaninov.
Ouais, victoire en prolongation du Racing.
En prolongation.
Ouais, 1-0-0, puis un...
Bah logiquement,
c'est un vieux 1-0 en prolongation.
Si on suit la logique du match contre Lungen, où il y avait effectivement plusieurs divisions en dessous, un match qu'on maîtrise très difficilement, c'est vrai que là on devrait avoir plus de difficultés contre... Tout dépend, parce que si la ligne aussi des joueurs peut-être plus expérimentés, là c'était vraiment la totale, c'était 21 ans, ça n'a jamais été aussi bas au niveau moyen d'âge.
Mais je pense qu'il va faire tourner encore pas mal.
Est-ce qu'il va pas mettre quand même d'être des joueurs plus expérimentés?
Moi, je pense qu'il fera encore tourner. Et ça sera du coup une équipe de niveau CFA.
CFA contre DH, c'est vrai.
Une espèce de mix contre une équipe de DH surmotivée, ça fait que deux divisions d'écart. Ça peut être le coupe-gorge, quoi.
Ils peuvent forcément y croire. Moi, je sais pas trop. De toute façon, je serai pas au match. Donc je peux pas vous... Je sais pas, j'ai du mal à me projeter là-dessus, je sais pas, on va dire... Ouais, je veux dire comme vous, 1-0 dans la souffrance, et puis voilà. Par contre, il y a aussi un match contre Créteil qui s'annonce, si je ne me trompe pas, le prochain match en championnat. Mmh. Là aussi, est-ce qu'on peut espérer une première victoire à l'extérieur? Justement, voilà, Créteil, c'est peut-être symbolique, on parlait de Fournier en le glorifiant avant. Créteil, l'ex-club de Fournier, pourquoi pas gagner à Créteil?
On l'attend depuis tellement longtemps, cette victoire à l'extérieur.
Ça va peut-être arriver finalement, quoi.
Ça va peut-être arriver finalement, mais bon, enfin, je pense que si ça arrive, ce sera pas bon. Mais si c'est pas beau, tant pis, on la prend quand même. Hein.
On la prend quand même.
Ouais. Je sais pas, je... Alors, je ne sais même pas où est Créteil actuellement au classement.
Ils sont 11e.
11e,
donc enfin, juste 10e ex aequo, juste devant.
Juste devant
nous. Mais avec quand même 2 points d'avance. Mais ouais, sinon, c'est pareil. Quoi.
Voilà.
Ils sont juste devant nous.
On verra. Peut-être que ça sera la bonne.
Pourquoi non ?
Pareil.
Qui a envie d'aller se coucher.
Non, bah, à mon avis, on n'est pas si loin de la victoire à l'extérieur. Ça fait quand même quelques matchs qu'on, bah, qu'on est solide déjà. Et genre des matchs genre le Paris FC, même un match comme le dernier la Passy sur heure, où c'est aussi Bouloubi-Boulia, c'est quelque chose d'ignoble. Ah, sur un malentendu, on peut le gagner ce match.
On peut le perdre.
On peut aussi le perdre, mais...
Drachma.
Moi je pense à un nul, ouais. c'est pas pour tout de suite, mais ouais, un 0-0. Ouais.
Moi je crois.
Mais ce qui est pas mal, hein, ouais. si on gagne à la Méno et qu'on fait un nul à l'extérieur,
ça suffira pas.
Un parcours de champion.
Ça suffira pas.
Oui, c'est un parcours de champion, mais comme on a démarré par des nuls à domicile,
on a entre guillemets que 6 points de retard.
Oui, mais il y a 8 ou 9 équipes devant nous pour la montée.
Ouais, non, mais je veux dire, c'est. Non, il faudra en gagner à l'extérieur, mais je pense que c'est pas urgent. Là, si on fait nul,
c'est pas urgent, c'est sûr.
Moi, je vois bien un nul, ouais.
L'urgence, c'est que Jaffar quitte le club. Ça, on est tous d'accord. Moi, je crois à la force du symbole, l'ex-club de Fournier, voilà. Je sais pas. Je sens un truc, là, un petit... Là, je
un peu de trop bon.
Non, je me souviens, là, 2-0, vous savez, Créteil sous papa avec Rangelov. Je sais pas, c'est un match qui me reste en mémoire. Je sais pas, Créteil, ça lui réussit bien, a priori, donc... Non, sauf qu'ils avaient gagné à la Méno une fois 0-2 en 2001, avec des buts de Robert Mann, je crois, un but de Robert Mann pour Créteil. Et c'est là où il y avait la banderole « Fier d'être cristolien ». Il y a un supporter de Créteil qui a fait le déplacement, et c'était « Fier d'être cristolien » au singulier, la banderole. Bon, ça, c'était bon.
Il y avait Yannick Roth qui avait sauvé une balle sur son but.
Et c'est Yannick Roth, effectivement, qui avait sauvé un ballon. C'était la première défaite du Racing à domicile de la saison en 2001-2002, c'était Créteil. Donc c'est pas que des bons souvenirs Créteil, mais en tout cas, voilà, on espère tous que ça va bien se passer.
Avec Créteil, c'est la seule ville de France où le palais de justice est plus grand que l'université.
Voilà, c'est sur cette note culturelle, cette anecdote sympathique que nous allons nous quitter. Et on revient bientôt, bien sûr, hein, dans quelques poignées de jours, on verra ça, on analysera tout, et j'espère qu'on pourra fêter une fois, prochain Radio Stube, la défaite du Racing, non, le départ de Jaffar, ouais, je suis fatigué, avec une belle bouteille de champagne, on laissera pour une fois les bières de côté, enfin voilà, en temps, et encore, et pour toujours,
allez Racing,
ciao.